This meeting is being recorded.
Vous êtes en train de partager votre écran. Moi, j'ai mis mon enregistrement en route. Je reviens sur mon fichier PDF. Bonjour. Là, vous voyez quelque chose?
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez là?
On voit le titre du 11 avril 2025, cours 2.
D'accord, très bien. Bon, on a déjà perdu 5 bonnes minutes, mais enfin, très bien. Bon. Bonjour à tous. Alors, vous êtes combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, 8. Bon. Donc, du cours 2. Alors, je passe les diapos suivantes. Alors, je fais un bref rappel de ce que j'ai fait la dernière fois. Je vous ai présenté les lois physiques dont on pense qu'elles gouvernaient l'écoulement atmosphérique et océanique. Alors, ces lois physiques. Oui, alors première chose, oui, c'est évident, le système climatique, c'est une machine thermique, hein, c'est une machine qui transforme de la chaleur qui vient du soleil en énergie mécanique. C'est une machine de Carnot. Une machine de Carnot, on parle toujours de rendement. Alors le rendement, dans ce cas particulier, il est à peu près de 7% évalué. D'autre part, ces équations que je vous ai présentées, je les ai présentées sous forme d'équations aux dérivées partielles, avec des dérivées par rapport aux coordonnées d'espace et des dérivées par rapport au temps. En ligne, est-ce que vous voyez mon pointeur?
Oui.
Oui.
Très bien. Bon, alors ces équations, je les ai présentées comme sous forme d'équations aux dérivées partielles locales. Bien entendu, elles expriment des propriétés physiques qui sont valides pour des volumes ou des masses finies, conservation de la masse, bien entendu, hein, c'est une forme infinitésimale et de principe valide pour des masses ou des volumes finis. Et d'ailleurs, dans la discrétisation en éléments finis, c'est bien ce qu'on utilise. On prend des éléments finis, des volumes finis dans l'espace dans l'espace physique considéré, et on fait des bilans aux frontières, des bilans à l'intérieur de chacun de ces volumes finis. On pourrait, à la rigueur, construire un modèle de circulation atmosphérique sans parler de dérivés infinitésimales. On pourrait probablement pas créer un modèle spectral, mais des modèles géométriques, fondés sur une construction géométrique, on pourrait. Bon, équilibre géostrophique. L'autre jour, certains m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'équilibre géostrophique. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Ou en ligne? Bon, parce que c'est une propriété fondamentale. Bon, c'est vous qui dit que dans la direction horizontale, l'équation conservation of momentum, la force de gradient de pression et la force de Coriolis s'équilibrent à peu près, à 10% près, et dans les latitudes moyennes, pas à l'équateur, où la force de Coriolis en composante horizontale devient nulle. Et c'est extrêmement important. Ça explique pourquoi le vent tourne dans un sens autour des dépressions, dans le sens des inverses des aiguilles du monde autour des dépressions dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles, dans le sens des aiguilles du monde autour d'une zone de haute pression, les sens de rotation étant inversés quand on change d'hémisphère. Bon, là, vous savez, c'est l'équilibre géostrophique dont je parlerai un peu. Non. Alors, ça, c'est une diapo que je vous avais déjà montrée. Les modèles, alors que les modèles numériques, bon, utilisés pour faire de la prévision météorologique à grande échelle, sont fondés sur ce qu'on appelle les équations primitives, qui elles-mêmes sont fondées sur un certain nombre d'ensembles d'hypothèses, particulièrement l'approximation hydrostatique dont je viens de vous parler. Et par exemple, l'approximation que l'épaisseur de l'atmosphère est négligeable au regard du rayon de la planète et quelques autres. Bon, alors les simulations climatiques, en particulier les projections, puisqu'on utilise dans ce contexte les projections, utilisées entre autres dans les rapports du GIEC, sont fondées aussi sur les équations primitives, mais ils contiennent une description beaucoup plus détaillée de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique, excusez-moi, parce que si l'état de l'océan, et plus encore son évolution, oui, l'état de l'océan à un instant donné est important, même pour faire de la prévision à courte échéance, mais l'évolution, si on veut faire une prévision météorologique à 3 ou 5 jours, l'évolution de l'océan sur 3 ou 5 jours ne compte pas. Par contre, si on veut faire des prévisions sur ce que peut être le climat dans 50 ou 100 ans, mais sur 50 ou 100 ans, la circulation de l'océan peut changer. Donc, les modèles destinés à des simulations climatiques sont construits, ont une description beaucoup plus détaillée de la circulation ionique. Et alors, il existe aussi des modèles non hydrostatiques qui sont utilisés en particulier pour la météorologie de petite échelle. Et certains d'entre vous m'ont dit l'autre jour que, contrairement à ce que j'imaginais, il y a maintenant des modèles non hydrostatiques globaux. Bon, oui.
Description of the ocean circulation, mais les modèles de prédiction météorologique qui contiennent une partie océan, c'est
Ah
forcément.
ben, pour les modèles de prévision météorologique, la température de l'océan est introduite dans le modèle et les échanges entre l'atmosphère et l'océan sont représentés de manière assez simple, mais même pour la prévision relative aux courtes échéances, ils sont représentés en particulier, la température de l'océan est incluse dans ce
Mais
modèle.
elle est constante?
Ben, elle est constante. Ou peut-être dans certains, il y a des modèles pour faire utiliser pour faire des prévisions saisonnières. Alors là, la température de l'océan est variable. D'abord, on sait un peu qu'elle varie en saison de toute façon, donc on peut introduire la variation connue. Et il y a des interactions. Alors, je ne sais pas ce que sont tous les modèles, ces choses-là sont en évolution permanente, mais une certaine description de l'évolution de l'océan, fondée sur une représentation des couches supérieures de l'océan et des échanges entre l'océan et l'atmosphère, échange de chaleur, échange d'humidité, sont pris en compte. Elles sont présentées avec un certain degré de précision. Mais plus en quelque sorte l'échéance est lointaine, plus il est important de représenter précisément les circulations océaniques, avec la difficulté que les échelles de temps considérées sont beaucoup plus longues sur l'océan que dans l'atmosphère. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, il peut y avoir deux modèles, en fait, qui interagissent à un certain moment entre eux. Enfin, il y a toutes sortes de modalités qui sont l'objet d'études permanentes et que d'ailleurs, je ne pourrais pas vous décrire en détail. Bon, y a-t-il des questions là-dessus? En ligne, est-ce que vous avez des questions? Puisque maintenant, nous allons passer à la suite. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, Numerical Weather Prediction. Alors, vous présentez les performances des modèles de prévision météorologique. Je ne parlerai quasiment pas des modèles océaniques. Je décrirai le système d'observation météorologique et je vous proposerai ce que le problème de l'assimilation, qui est le problème de combiner des observations, un ensemble extrêmement complet de l'observation, avec un modèle numérique de la circulation. Alors, je me prendrai et expliquerai que l'assimilation, c'est une forme de problème inverse et qu'une approche tout à fait générale pour les problèmes inverses, c'est l'estimation bayésienne. Toutes les sources d'informations que l'on utilise là-dedans, les précisions, les observations comme les modèles, sont affectées d'une certaine erreur qui doit être prise en compte. Et la meilleure description de représenter l'incertitude associée à l'erreur, ce sont des distributions de probabilité. Donc, on a introduit assez naturellement là-dedans des notions probabilistes assez élémentaires, mais on les a introduites. Alors, je vais présenter principalement des résultats du Centre européen pour la prévision météorologique à moyen terme, CEPMMT, installé en Angleterre. Le nom anglais, c'est European Center for Medium Range Weather Forecast, ECMWF. Elle a aussi un nom allemand, puisqu'il y a trois langues officielles de ce service. Alors, c'est un organisme international. Actuellement, il y a 23 États membres et 12 États qui coopèrent, c'est-à-dire, je pense, ça veut dire qu'ils payent autant que les autres, mais ils ont un pouvoir de décision, puis des décisions plus réduites, je pense que c'est ça. Alors, pour répondre à une question courante, le Centre européen, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas un organisme de l'Union européenne. Il y a des parties, il y a des pays qui appartiennent au centre européen de reading et qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Il y a par exemple la Suisse, il y a la Turquie, et maintenant il y a le Royaume-Uni qui appartient au centre européen, qui l'accueille même, mais qui n'appartient plus à l'Union européenne. À l'inverse, il y a des pays qui appartiennent à l'Union européenne et qui n'appartiennent pas au centre européen. Par exemple, la Pologne, qui aujourd'hui n'est même pas un État coopérant. Et puis quand on le dit, le centre européen, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque au moins par les États coopérants, il y a trois États qui ne sont pas en Europe. Il y a Israël, il y a le Maroc et il y a la Géorgie. Donc, qui participent aux activités, mais qui ne sont pas. Alors, c'est un organisme commun qui est. En fait, statistiquement, c'est un organisme commun aux services météorologiques de ces différents pays. Et le Conseil, c'est-à-dire l'autorité suprême dans ce centre, est constitué des directeurs des services météorologiques de ces différents, de ces différents pays. Et alors, chaque pays paye en proportion quoi, de son PIB, quoi. Enfin, il y a des règles. Alors, oui, le centre a été établi en 1975. Il produit des prévisions quotidiennes depuis 1980, donc ça fait déjà assez longtemps. Il est centré à Reading, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ce centre de données, c'est son centre de calcul, est installé à Bologne, en Italie. Et alors, le centre européen accueille le programme Copernicus, qui est un programme de l'Union européenne. Alors, pour des raisons de logistique absolument évidentes, accès aux observations, capacité de manier, c'était tout à fait naturel que ce service financé par l'Union européenne soit accueilli par le centre européen de Reading. Mais alors, quand le Royaume-Uni, après le Brexit, l'Union européenne a dit pas question, pas question. Qu'un service de l'Union européenne soit localisé dans le Royaume-Uni. Et alors, le programme Copernicus a été déménagé à Bonn en Allemagne. Ce qui fait qu'en fait, les activités du centre européen sont dispersées entre trois endroits, Reading en Angleterre, Bologne en Italie et Bonn en Allemagne. Ça ne simplifie pas les choses, en particulier pour le directeur. Bon. Incidemment, ça fait maintenant 50 ans que le centre a été créé et actuellement, il célèbre son 50e anniversaire par un certain nombre de réunions, séminaires et autres qui se tiennent ces jours-ci. Bon, alors pour ce qui est du modèle, le centre européen, donc là, oui, ont tout un tas de modèles, mais alors, de façon générale, ils définissent leur système de prévision comme Integrated Forecasting System, IFS. Pourquoi Integrated? Parce qu'en fait, il a été développé, ce modèle de prévision a été développé en coopération avec d'autres services, en particulier Météo France. C'est pour ça qu'il est Integrated. Bon, et alors la version, si vous voulez, officielle, canonique, c'est la version HERS, High Resolution. Alors depuis un certain temps, depuis mars 2016, c'est un modèle hydrostatique. Bon, semi-spectral, je vous ai expliqué ce que c'était l'autre jour. À troncature triangulaire, bon, ça, bon, pas peine de savoir. Ce qui correspond à une résolution horizontale d'environ 9 km, ce qui est bien en dessous de l'échelle où l'approximation hydrostatique est valide, qui est plutôt de l'ordre de 15-20 km. Mais enfin, jusqu'à présent, ils sont contents des résultats. Il y a 137 niveaux dans la direction verticale. Ce qui veut dire qu'il monte à peu près jusqu'à 80 km. Il y a une discrétisation en éléments finis de la direction verticale, fondée sur une coordonnée hybride, bon, qui est combinée entre pression et altitude. La dimension du vecteur d'état est de l'ordre supérieur à 10 puissance 9. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de quantités qui sont définies au début de la prévision et dont l'évolution au cours de la prévision est explicitement calculée. Le pas de discrétisation temporelle, ah oui, ça, je. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais promis de parler de la discrétisation temporelle. Et je vois que je n'ai pas eu les Bon, d'accord. Bon, mais je continue avec ça. Bon. Je vous ai pas parlé de la distantisation temporelle. Je voulais le faire la fois dernière. J'ai pas eu le temps. Bon, ben, si j'ai le temps, je le ferai. Bon, c'est un peu. Bon, enfin, le pas de distantisation temporelle est ce qu'on appelle un schéma semi-lagrangien, semi-implicite, de 450 secondes. Alors, 450 secondes, 9 km. En 450, bon, à peu près le temps, à l'échelle de 9 km, il peut commencer à passer des choses. Et alors le modèle est intégré 2 fois par jour, à partir de 0h et 12h UTC, à une échéance de 10 jours. Et certains jours, je pense qu'ils sont, ils sont intégrés plus loin. Bon, je ne comprends pas pourquoi j'avais bien mis dans mes. Dans mes diapos, je croyais avoir mis l'histoire de discrétisation temporelle, mais je ne. Bon, alors, la fois dernière, je vous avais présenté une prévision effectuée à partir du 1er avril à 0h UTC jusqu'à 10 avril, c'est-à-dire une prévision à échéance de 9 jours. Je vous l'avais présenté. À l'époque, c'était dans l'avenir, et je vous avais dit que je vous présenterai aujourd'hui la réalité, c'est-à-dire le résultat final, tel qu'il est évalué par le modèle lui-même. Hein, donc. Et c'est ça les deux courbes que vous avez. Alors je rappelle, la région géographique, c'est l'Europe occidentale. Vous avez ici la Grande-Bretagne, vous avez ici la France, vous avez ici l'Espagne, et là, vous voyez à l'est, vous voyez la mer Rouge ici, c'est assez difficile de distinguer, vous voyez. La Norvège en haut ici, dans la partie bleue. Vous voyez l'Islande ici. Vous voyez la pointe du Groenland ici. Ici, bien entendu, vous avez l'Atlantique. Alors, les quantités représentées sont d'une part les lignes longues, le géopotentiel à la surface isobare, l'altitude de la surface isobare, 500 hectopascal, 500 millibars, on ne parle plus de millibars, c'est-à-dire la couche, le niveau qui sépare l'atmosphère en deux couches de masse à peu près égales, et qui se trouvent à l'altitude, c'est entre 5 000 et 6 000 mètres, suivant la latitude. Bon, alors ceci, du fait de l'approximation géostrophique, ceci représente une assez bonne représentation de l'écoulement, c'est-à-dire que l'écoulement à tout instant suit d'assez près les courbes des eaux géopotentielles. Bon. En particulier ici, vous avez une dépression, une dépression prévue, vous avez une rotation dans ce sens-là. Puis ici, vous avez un col avec une rotation ici, et deux petites maximums de pression ici prévues. Et puis, vous avez aussi la température à 850 hectopascal, c'est-à-dire. Et alors, la température que vous avez en couleur, bleu quand c'est froid, rouge quand c'est chaud, jaune quand c'est entre les deux. C'est redondant avec le géopotentiel à 500 hectopascal parce que du fait de l'approximation hydrostatique, le géopotentiel, c'est l'intégrale verticale de la température. Donc la température à 850 hectopascal et le géopotentiel à 500 hectopascal, c'est pas très différent. D'ailleurs, vous voyez que c'est très fortement corrélé, une très forte corrélation entre. Alors, du fait de l'approximation géostratique, les lignes là, c'est à peu près les lignes de courant de l'écoulement, sauf dans les endroits où la. Ah, sauf! Ce n'est pas le cas ici, mais au niveau du sol. Au niveau du sol, la force de pression augmente et la force de friction est présente et l'approximation géostrophique n'est plus valide. Et aussi dans les endroits de très forte courbure, ici, où évidemment une accélération, la composante de l'accélération, une composante centrifuge est importante et donc entre aussi dans le bilan de force. Bon, alors en bas, c'est ce qui était observé hier matin. Alors, bon, vous avez ici. Ce qu'on appelle un Tellweg, qui a un peu changé de forme. Et puis ici, là, cette partie-là est plus forte maintenant, ça c'est un maximum de pression, qui est plus forte dans la réalité que dans la prévision. Et la dépression qui est ici est plus faible que dans la prévision. Bon, c'est ni franchement bien, ni franchement mal. C'est assez bien, on s'en ressemble quand même, hein. Mais ça peut être mieux ou ça peut être pire. C'est cet exemple que je choisis simplement parce que. C'est celui du jour. Et bon, c'est ni particulièrement. Trois personnes sont entrées dans la salle détente. Alors, excusez-moi, il va falloir que j'arrête le partage. Excusez-moi, j'arrête le partage. Je vais dans la salle d'attente. Et alors, participants. Oui, d'accord. Donc j'en ai trois. Admettre. 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 Voilà, c'est ça. Et je reviens dans. Je reviens alors avec des leçons. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je ne vois pas. Je vois. Je reviens demander de réduire le son. Voilà. Je reviens maintenant dans, dans partager. Partager l'écran. Ça doit être ça. Partager. Voilà. Ça. Alors ça, c'est... C'est quoi maintenant? Du coup, je me suis perdu. C'est. Je remonte. Oui, donc ça, c'est la prévision en 1 à 9 jours et la réalité. Et oui, alors ça, c'est l'évolution sur les 9 jours. Ça, c'était l'état de départ de la prévision. Et ça, c'est ce qui est observé, ce qui a été observé hier matin. Bon. Alors, ça n'a pas changé de façon radicale. Hein. Du bleu en haut à gauche, du rouge à droite. Hein, ça a pas changé. Mais le détail a assez peu changé, parce qu'ici, il y avait une espèce, il y avait une zone de haute pression sur la Grande-Bretagne, qui d'ailleurs explique un peu le beau temps que nous avons eu ce temps-ci, tandis que maintenant, cette zone de haute pression, elle est un peu décalée. Bon, il ne faut pas savoir, on pourra regarder comment ça a évolué en cours du temps, mais le changement est assez important, en tout cas plus grand que la différence entre la prévision et ce qu'on a observé. Donc c'était bon, pas absolument et bon c'est une vraie prévision. Bon, alors ça, ce n'est pas, c'est toujours la même région, ce sont d'autres quantités, c'est la pression au niveau de la mer. Alors ça, la pression au niveau de la mer, quand on est au niveau de la mer, il n'y a pas de problème. Quand on est dans une zone de montagne, qu'est-ce que c'est la pression au niveau de la mer? Alors, les météorologues gardent une extrapolation de la pression au niveau de la mer, même quand il y a pas mal de relief, et ça donne quelquefois des résultats un peu bizarres, puisqu'il s'agit d'évaluer, par exemple ici, vous voyez là, c'est pas, c'est assez biscorne, mais la pression au niveau de la mer, ça ne veut rien dire, la pression au niveau de la mer au-dessus du Caucase, ça ne veut rien dire. Oui. Oh! Une loi simple, je ne me rappelle plus ce que c'est. Bon, mais c'est. Bon. Ça fait partie de quelque chose qu'à un temps, les météorologistes utilisaient et qu'ils continuent à introduire. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils supposent un profil de température à peu près adiabatique, je pense. En gros, dans l'atmosphère, le profil de température, quand vous montez, ça décroît. Et il est à peu près, correspond à peu près à un profil adiabatique, c'est-à-dire le décroissement de la température. Si vous prenez une masse d'air, vous la montez, elle se détend, donc elle se refroidit. Et c'est à peu près ça. Quand c'est pas, quand l'écoulement est instable, c'est-à-dire que la masse d'air qui monte devient plus légère que la masse d'air environnant, ben évidemment, c'est instable. Donc, ça met en route des mouvements verticaux, des mouvements qui sont extrêmement importants et qui jouent un rôle essentiel dans le transfert d'énergie depuis les basses couches vers les couches plus élevées. Mais alors, je pense que l'extrapolation, là, c'est fait sur la base d'un profil de température adiabatique ou quelque chose comme ça. Alors, là aussi, c'est aussi. Alors, vous avez d'une part. La pression réduite au niveau de la mer, alors sur la mer, ça veut dire quelque chose, et vous avez d'autre part en couleur le vent, alors le vent à quelle altitude? À 850 hectopascal. Donc quand le vent, quand c'est foncé, il y a beaucoup de vent, quand c'est blanc, il n'y a pas de vent. Bon, alors vous avez ici la différence entre la prévision en haut et la réalité. Alors vous voyez, ça se ressemble plus que les figures précédentes. Alors là aussi, vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas ça? Là aussi, vous avez l'évolution entre l'état initial, donc le 1er avril, là, disons, et la réalité, le 9 avril. Alors vous voyez que ça a pas mal changé aussi. Bon, alors des exemples. Des exemples de quelque chose qui n'a pas marché du tout et un exemple de quelque chose qui a très bien marché, pour prendre les extrêmes. Alors, je ne regardais pas ces choses-là au jour le jour. Le centre aura bien entendu, publie régulièrement un compte-rendu de ses activités et cite toujours des cas particuliers qui ont réussi ou pas réussi. Mais là, j'ai des exemples un peu anciens et je n'ai pas recherché des exemples nouveaux. Alors ça, c'est un exemple qui n'a pas marché du tout. C'est date de 2022, mars 2022, donc ça fait 3 ans. Donc c'est encore pression. Alors une prévision à échéance, c'est absolument 168 heures, c'est-à-dire 7 jours, une prévision à échéance de 7 jours. Ça, c'était la prévision. Et puis ça, c'était la réalité observée. Alors c'est encore pression au niveau de la mer et vent à 850. Vous voyez que ici vous aviez deux structures, un maximum ici, un minimum ici. Maintenant, là, au contraire, le gradient de la générale de pression au niveau de la mer est est-ouest, c'est-à-dire que les isolines sont quasiment nord-sud. C'est tout à fait différent. C'est un exemple de ce qui n'a pas marché. Alors, ici, que je regarde. Oui, alors ça, c'est encore l'état de départ et l'état d'arrivée, je pense. Oui, l'état d'arrivée en bas et l'état de départ en haut. Alors, le changement était assez significatif entre les deux. Je ne sais pas si on a vu. Oui, le Centre européen de Reading, parmi tous les services météorologiques, est celui qui, généralement, produit, très généralement, pas toujours, mais très généralement, produit les prévisions de meilleure qualité. D'ailleurs, l'accès à ces prévisions est libre. Bon, il y a des gens qui ont évidemment un accès spécial. Les services météorologiques des pays des États membres ont évidemment un accès plus grand. Mais vous pouvez aller regarder, sur le centre, regarder des tas de choses. Vous verrez tout ce que je vous démontre, quasiment tout, non pas ça, mais quasiment tout, est issu de ce qui est en ligne et qui est accessible par tout le monde. Alors, ça, au contraire, c'est une situation qui a très bien marché, qui est aussi assez ancienne, puisque ça date d'avril 2020. Ça fait donc 50 ans. Pas 50 ans, 5 ans. Ça fait 5 ans. Alors la région aussi n'est pas forcément identifiable. Vous avez ici la Scandinavie. Bon, le pôle Nord est au milieu ici, le pôle Nord. Bon, c'est donc la région du pôle Nord. Hein. Vous avez ici. Ah, il faut que je revienne. Vous avez ici. La Scandinavie, vous voyez ici la Norvège, là, la côte de la Norvège, ici. Vous avez ici l'archipel du Svalbard, à peu près en mi-chemin entre le Cap Nord en Norvège et le pôle Nord. C'est quoi? Alors, ça à gauche, c'est la situation le 16 avril 2020, le géopotentiel à 500 hectopascales, toujours la même chose. Le géopotentiel à 500 hectopascales, c'est en gros la quantité qui représente le mieux l'écoulement à grande échelle. Si on veut avoir des idées sur l'écoulement à grande échelle, il faut regarder le géopotentiel à 500 hectopascales. Et puis les températures à 850 hectopascales qui sont représentées en couleur. Et là encore, il y a une assez forte corrélation entre les deux, puisque le géopotentiel est l'intégrale verticale de la température. Bon, alors ça, à gauche, c'est pour le 16 avril. Et à droite, à 0 UTC, et à droite, c'est le 19 avril. Alors, vous avez une petite croix qui représente la position d'un bateau océanographique allemand qui s'appelle le Polarstern, qui, comme vous pouvez le savoir, veut dire l'étoile polaire, qui ce jour-là s'est trouvé ici, un peu au nord de l'archipel des Svalbard. Et alors, il s'est produit une intrusion chaude. Vous voyez, la température, le 19 avril, était élevée. Par rapport, alors je ne sais pas, il faut voir les échelles ici, en fait c'était 4 degrés, alors que quelques jours auparavant, vous aviez le Svalbard, il était beaucoup, beaucoup plus froid. Et surtout, ce qui s'est produit, c'est que la température observée à cet endroit était, alors là c'est représenté, vous avez ici la climatologie. Ça, ici, vous avez la température observée. Donc la climatologie, vous avez ici en rouge, avec les quantiles correspondants, c'était une température qui, climatologiquement, a une probabilité d'à peu près 1% de se produire à cet endroit-là, en cette saison. Bon, donc un événement assez exceptionnel. Et vous avez ici, sur les jours précédents, les résultats de la prévision d'ensemble. Je vous l'ai dit, le centre européen, comme d'autres, produit des prévisions d'ensemble, c'est-à-dire que deux fois par jour maintenant, en même temps qu'il fait son prévision de modèle à grande échelle, il fait 50 prévisions, des mises en route à partir, c'est peut-être même déjà 100 maintenant, à partir de conditions initiales légèrement modifiées, et puis avec des paramètres légèrement modifiés et censés échantillonner l'incertitude sur l'état initial, et à partir avec des paramètres physiques dans l'intégration du modèle elle-même qui sont censés représenter des valeurs différentes, qui sont censés représenter l'incertitude sur ces paramètres physiques. Donc, on obtient tout un ensemble d'observations, je vais vous en dire quelques-unes, qui est censé représenter l'incertitude sur l'écoulement. Et vous voyez qu'à mesure que les jours progressaient, la distribution de prévisions d'ensemble devenait de plus en plus serrée et a en fait été à converger exactement vers la valeur observée. Donc, on a fait une prévision d'un événement exceptionnel, et non seulement on l'a faite, mais la prévision d'ensemble annonçait que cet événement exceptionnel allait se produire, et annonçait correctement. Ça, c'est une situation qui a très bien marché. Pourquoi je... Oui.
Elle a été produite le 1er avril. Tous les points, les incertitudes ont convergé. C'est une prévision du 1er avril.
Non,
Tous les points.
vous voulez dire cette figure-là?
Ce que je veux dire, c'est que est-ce que le 1er avril, on avait les points finaux ou ça convergeait?
Ah ben le 1er avril, non, le 1er avril, les dates sont ici. Les dates sont ici. Le 1er avril, il est même en dehors de... Mais par exemple, le 7 avril, on avait encore une incertitude importante sur la température et surtout des valeurs de température beaucoup plus basses que ce qui a été déterminé et observé en définitive. Observé et prévu correctement.
Et la température à laquelle vous le savez, le même temps.
Oui, alors d'accord, effectivement, vous avez raison de poser la question. C'est la prévision pour le 9, c'est la température prévue le 9 pour le 19 par la prévision d'ensemble. Oui, vous avez tout à fait raison, je n'avais pas préjugé ça. Oui, vous avez raison. Oui.
Là, c'est figure. On la voit comme ça, on pourrait dire que c'est très impressionnant la précision, mais par rapport à la climatologie, mais il ne faut pas oublier que c'est intégré, qu'il y a tous les jours des mesures qui viennent s'intégrer en elles.
Absolument. Tous les jours, il y a des mesures. C'est ce que fait la simulation. Tous les jours, il y a des observations qui sont introduites dans le modèle et qui permettent d'abord de le maintenir assez proche de la réalité et surtout, quand on fait tourner le modèle dans l'avenir, pour les jours suivants, de produire des prévisions qui, dans certains cas, sont très, sont, comme dans ce cas-là, sont très...
C'est peut-être moins impressionnant qu'on pense parce que vu que le modèle intégrait déjà des températures qui étaient en dehors des limites, comme on peut voir,
Oui.
en tout cas, ça réduit la zone d'incertitude, sachant qu'on est déjà en dehors des
Oui, bon, c'est
grandes.
exact. C'est exact. Ce n'était pas comme si on faisait une prévision. C'est rien, mais enfin, la prévision. Pardon, oui. J'ai la prévision à partir du 9, là. Oui.
Pas compris dans les bandes
Oui, absolument, absolument, absolument. Quand on voit les prévisions à partir du 5 ou du 9, la valeur qui est en définitive observée le 19 n'est même pas représentée dans la marge d'incertitude. C'est-à-dire que là, on trouverait un cas, comme d'ailleurs ça arrive assez habituellement, où la valeur observée tombe en dehors de l'incertitude prévue. Ça se produit. D'ailleurs, c'est un des diagnostics que l'on fait Mais enfin, voilà, pour un exemple de prévision réussie. Bien entendu, les observations ont été utiles, mais il y a dû y avoir, dans cette situation particulière, des choses qui ont favorisé cette prévision d'une qualité inhabituelle. Quelle c'est-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Bon, alors maintenant, je vous présente d'autres. Oui. Pardon? Des personnes d'attente. Bon, très bien. Je regarde. Très bien, je regarde. Alors, il faut que je mette le partage. Je regarde les participants. Il y a Augustin qui est bloqué dans la salle d'attente. Alors, comment je vais faire pour...
C'est bon, vous m'avez accepté.
Je l'ai accepté, bon, d'accord.
Alors, sauf si y a un autre Augustin, hein. Je
Ben,
sais
je
pas,
regarde
mais.
encore, avec le nom, je regarde. Participe. Ah oui, il y en a à admettre. Otto Brinner et Kay Wenyu à admettre, je les admets. D'accord. J'ai passé en cours. Bon, très bien. Merci de m'avoir signalé. Oui, il y avait une autre question? Il y avait une autre question à propos de ça? Non, d'accord. Bon, alors maintenant, bon, je vais vous présenter des résultats, principalement du Centre européen, en particulier. Bon, je dis vous pouvez aller sur le site du Centre européen et regarder tout ça. C'est pas forcément très simple. Quelquefois, c'est vaguement labyrinthesque. Quelquefois, enfin, en cherchant, vous faites parfois. Alors, en particulier, tous les ans, le Centre européen publie un mémorandum technique qui décrit en quelque sorte l'évaluation des prévisions et qui est disponible, si vous voulez, à l'adresse qui est ici. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur le site chercher le mémorandum technique. Bon, alors ça présente au cours des années. L'échéance, alors vous avez ici 1998, je rappelle que le centre de
Excusez-moi.
prévision
Oui,
tous les jours
il
depuis
faut relancer le
1980.
partage. Oui, le partage a été arrêté.
Le partage a été arrêté. Ah, excusez-moi, oui, d'accord, vous avez raison de me le signaler. Donc, je reviens. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois cliquer pour rajouter le nom? Le partage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Partager. Voilà, c'est revenu.
Oui.
D'accord, très bien. Il a bien fait de me signaler. Bon, alors ça présente en fonction de l'année. Ça commence en 2008, 1998, mais en fait, ça va bon jusqu'à maintenant. L'échéance en jours où un certain coefficient de corrélation atteint la valeur bon, cette coefficient décroît avec l'échéance, et c'est le jour, l'échéance atteint la valeur de 0,8. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coefficient de corrélation? C'est un truc que les météorologistes utilisent beaucoup. C'est le coefficient de corrélation entre... Alors, on prend la climatologie, on prend l'écart du jour à la climatologie et l'écart de la prévision à la climatologie. Et on cherche le coefficient de corrélation entre ces deux quantités. Coefficient de corrélation spatiale. C'est donc une diagnostic spatiale qui compare les fluctuations spatiales de la prévision et de l'observation, mais qui ne mesure pas les amplitudes éventuelles entre les deux, qui ne mesure que la corrélation spatiale. Alors, ce coefficient est au départ très élevé, du moins on peut l'espérer, et puis au fur et à mesure que les chances augmentent, eh bien, il se dégrade. Et là, on regarde nos jours d'échéance où il atteint la valeur de 0,80. 0,80. Alors, vous voyez qu'en 2000, c'était au bout de 5 jours, c'était pour l'hémisphère nord. C'était pour l'hémisphère extratropique. Au bout de 5 jours, c'était au bout de 5 jours, l'échéance. Maintenant, c'est au bout de 7 jours. Donc, d'après cette mesure, 2 jours de progrès dans l'échéance de la qualité des prévisions en 25 ans. Bon, je vous laisse juger si c'est bon ou si c'est mal. Mais c'est ça. C'est ça. 2 jours de progrès pour l'échéance en 25 ans. Bon. Ça, c'est la même chose pour l'hémisphère sud. Alors, en 2000, c'était 4 jours et demi contre 5 pour l'hémisphère nord. Mais maintenant, c'est 7 jours, différence. Et pour montrer encore les différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ça représente, c'est la même information dans un format un peu différent, c'est le coefficient de corrélation en question pour différentes échéances de prévision. Alors, 3 jours ici, 5 jours ici, 7 jours ici, 10 jours ici, pour différentes. Non, au fur et à mesure au fur et à mesure des années. Alors là, ça commence à 1980. Oui, ça commence à 1980. Ça commence au début des prévisions. Et ça va justement jusqu'à 2025. Alors, vous voyez que le coefficient de corrélation augmente au cours des années. La qualité des prévisions augmente. Bon, au début, il y avait une grande différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, à toutes les échéances. Ça vient de ce que il y avait beaucoup moins d'observations, ce qu'on appelle les observations conventionnelles, effectuées par des stations au sol, des radiosondages, éventuellement dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. De ce qui vient aussi que la circulation dans l'hémisphère sud est un peu plus difficile à prévoir que dans l'hémisphère nord, parce que dans l'hémisphère nord, il y a plus de quantités, plus de continents, qui, à cause des effets thermiques associés, tendent à localiser plus les structures météorologiques sur certaines régions. Vous avez entendu parler de l'anticyclone des Açores, vous avez entendu parler de dépression d'Islande. Il y a la dépression des Aléoutiennes, là, dans le nord de l'océan Pacifique, qui sont des structures qui sont quasiment toujours présentes, plus ou moins intenses, qui peuvent se déplacer, interagir avec d'autres, mais enfin, qui existent et qui sont assez localisées géographiquement. Dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de choses comme ça. Mais avec le progrès des observations satellitaires, vous voyez que depuis à peu près 2000 ou quelque chose comme ça, la différence de la qualité des prévisions n'a pas mesurée par ce coefficient de corrélation est devenue la même. Bon, incidemment, ce coefficient de corrélation, il est considéré comme étant utile, enfin représentant une certaine quantité, quand il est supérieur à 60%. Vous voyez, ben, on est devenu, c'était à 3 jours. Il avait dépassé 60% dans l'hémisphère nord, mais pas dans l'hémisphère sud. Et maintenant, il est largement au-dessus de 60% dans les deux hémisphères. Bon, alors une autre mesure. Ça, cette mesure-là, c'est vraiment une mesure qui prend en compte l'amplitude. Alors, c'est au nord, en haut pour l'hémisphère nord, en bas pour l'hémisphère sud. L'erreur quadratique moyenne, l'erreur quadratique, enfin la root mean square error, sur le géopotentiel à 500 octopascal, exprimé en mètres, c'est une altitude. Alors, c'est depuis, je ne vais même pas lire je ne vais même pas lire. Ça date en 1984, et ça va jusqu'en 1924. Alors, vous voyez que dans l'hémisphère nord, sur toute cette période-là, cette erreur moyenne est passée de 90 mètres, c'est l'altitude de 90 mètres, à moins de 50 mètres. La courbe en bleu, c'est l'erreur. Alors, ce sont des prévisions à 6 jours. Ce sont des prévisions à 6 jours. La courbe en bleu, C'est ce qu'on appelle la persistance, une technique qui consiste à dire qu'il fera demain le même temps qu'il fait aujourd'hui. C'est pas très compliqué. Et à courte échéance, c'est pas absurde. Évidemment, tout système de prévision qui utilisera de l'argent et qui ne fera pas au moins aussi bien que la persistance, ben, c'est du gâchis. Hein. Donc, c'est la persistance qui varie assez peu. Alors, en bas, bon, tu vas, bon, tu vas, bon. En bas, c'est l'hémisphère sud. Vous avez la même chose. Cette erreur est passée à l'origine de 105 mètres à quelque chose à un peu moins de 60. Donc, elle reste un peu plus grande dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Par cette mesure-là, il y a encore une différence entre deux hémisphères. Assez bizarrement, l'erreur dans la persistance augmente. Alors, le Centre européen n'a pas. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Alors, soit la climatologie change, hein, tout, soit autre chose, les modèles utilisés pour ça ont une leur résolution spatiale et les deux tailles avec lesquelles ils décrivent l'écoulement ont largement augmenté. Et du coup, le modèle a plus de variabilité, en particulier à petite échelle, à mesure qu'il il s'améliore. Donc, ayant plus de variabilité, l'erreur peut être plus grande. L'erreur de la prévision peut être plus grande. Bon, je pense que c'est ça la raison, mais je ne peux pas dire de façon catégorique. Alors ça, c'est encore alors la croissance, à partir de l'échéance, de un jour jusqu'à 10 jours, des erreurs, encore une fois, l'erreur quadratique moyenne, l'erreur de la racine carrée, l'erreur de Mme pour le géopotentiel à 500 hectopascales, la température à 850 hectopascales, on tourne la même chose, et alors le vent à 850 hectopascales, qui est quelque chose de différent. Alors il y a différents services météorologiques, et vous voyez que pour tous ces services météorologiques, l'erreur augmente avec l'échéance, c'est pas surprenant. Mais le Centre européen de rating, c'est le tireté rouge, qui est toujours là. Dans cette mesure-là, le meilleur. Encore une fois, c'est eux qui reçoivent le plus de moyens, donc la moindre des choses, c'est toujours le meilleur. Hein. Il n'y a pas particulièrement de. Bon, ça, maintenant, c'est les erreurs dans les tropiques. Bon, j'ai parlé du géopotentiel à 500 hectopascales, l'approximation géostrophique ne sont valables que de tropiques. Alors, ici, vous avez. Oh, j'arrive pas à lire. Focal l'erreur quadratique moyenne sur le vecteur vent à 200 hectopascales pour le haut, à 850 hectopascales pour le bas, pour un jour en bleu et 5 jours en rouge. Alors, vous savez donc l'erreur sur le vent. Vous voyez que depuis à peu près 2005, elle ne s'améliore plus vraiment. Dans les tropiques reste difficile. L'échéance que l'on peut faire de bonne prévision est plus petite, et au moins par cette mesure, le vent dans les tropiques, ben, la prévision ne s'améliore guère depuis maintenant presque 20 ans. Non. Donc tout n'est pas. Il y a des améliorations sur certaines choses, mais pas sur tout. Là, c'est les paramètres au sol. Alors vous avez la température à 2 mètres et vous avez dew point, le point de rosée. Alors je ne sais pas ce que c'est que vous savez ce que c'est que le point de rosée. On prend une plaque exposée à l'atmosphère, on la refroidit lentement et on voit à quelle température l'eau qui est dans l'atmosphère commence à se condenser. Donc c'est une mesure liée de la température et de l'humidité. Et alors ça, la température à 2 mètres et l'humidité, c'est ce que le client ordinaire de la météorologie attend qu'on lui prédise. Si on lui parle du géopotentiel à 500 hectopascales, si on lui en dit plus, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Là, il comprend mieux. Alors, vous avez les échéances à combien de jours? 60 jours. À 60 heures et à 72 heures, parce qu'évidemment, dans ces quantités au niveau du sol, il y a un cycle diurne marqué. Pour le géopotentiel à 500 hectopascales, on présente une carte du géopotentiel à 500 hectopascales à même quelqu'un qui est très expérimenté, Il ne peut pas dire à quelle heure locale c'est pris. Les cartes sur Europe que je vous montrais, impossible de dire à quelle heure locale ça a été pris. Pour les paramètres au sol, c'est tout à fait différent. Donc, vous n'avez pas la même courbe. Et alors, vous avez, pour les courbes du bas, c'est l'erreur systématique. Il y a des erreurs systématiques. Et les courbes du haut, c'est l'erreur quadratique. Vous voyez que pour l'erreur systématique semble se maintenir au cours des années. Et l'erreur quadratique diminue légèrement au cours des années, mais lentement. Donc, dans les tropiques, les paramètres au sol, on les améliore, mais vraiment lentement. C'est dû au fait que tout cela est déterminé par des processus, en particulier le cycle de l'eau et les échanges entre l'atmosphère et le milieu sous-jacent, qui sont beaucoup plus difficiles à représenter que les mouvements à grande échelle, dus au gradient de pression à grande échelle, dus à la force de Coriolis, dus à l'insolation, mais qui sont, eux, plus faciles à représenter. Bon, alors maintenant, les prévisions d'ensemble. Alors, je vous ai déjà présenté une figure de ce champ-là. C'est illisible, donc je n'insiste pas plus, sinon que ça prouve que le 131 prévoit en permanence 50 prévisions d'ensemble, peut-être même 100 d'ailleurs maintenant, je ne suis plus tout à fait au courant des dernières nouvelles, dont la dispersion est censée représenter l'incertitude sur l'état et l'avenir. Et je vous ai dit que le cas de la température au nord de Spitzberg, là, avait été très bien, un cas où ça avait très bien marché. En règle générale, il y a une assez bonne cohérence entre la dispersion des ensembles prévus et les résultats obtenus. Il y a une assez bonne cohérence entre, assez bonne, mais vous allez voir, entre une assez bonne cohérence statistique entre les probabilités prévues et les fréquences d'occurrence observées après coup. Et c'est-à-dire, ça représente ces courbes, qui sont alors là, Ensemble Spread Variability at Different Global Models pour 500 hectopascales, encore une fois le géopotentiel de 5 hectopascales, pour la période d'août 2023 à juillet 2024. Alors vous avez en haut les prévisions 24 heures, en bas, alors pour le hémisphère nord, en haut vous avez l'hémisphère mort, en bas vous avez l'hémisphère sud. À gauche, vous avez les prévisions 24 heures. À droite, vous avez les prévisions à 6 jours, 144 heures. Alors, vous avez en abscisse l'écart standard de l'ensemble prévu et en ordonnée, l'erreur dans la prévision. L'écart entre l'état prévu et la moyenne de l'ensemble prévu. Si l'ensemble prévu, si la réalité est ce que fondamentalement on souhaite, un échantillon, un tirage aléatoire de la distribution de probabilité prévue, eh bien, l'écart entre la réalité, l'écart statistique, l'écart standard entre la réalité et la moyenne de l'ensemble, doit être égal à l'écart standard de l'ensemble. C'est la cohérence. Donc c'est ça qu'on présente dans les deux. Donc s'il y a cohérence, ces deux quantités doivent être égales. Alors à 24 heures, elles ne sont pas très égales. À 144 heures, elles sont beaucoup plus égales. Est-ce que ça veut dire que les prévisions à 6 jours sont meilleures que les prévisions à 24 heures? Oui, enfin, d'après ce critère-là. Mais pas exactement. Parce qu'à mesure que l'échéance augmente, l'ensemble prévu tendra vers la climatologie, tendra vers quelque chose qui ressemble à la climatologie. Si je fais une prévision climatologique, c'est-à-dire que je prévois comme distribution de probabilité pour la température demain, la distribution climatologique de température pour le 12 avril, sur un grand nombre de cas, je tomberai juste. Donc j'aurai cohérence entre les probabilités prévues et les échéances et les fréquences observées. Oui. Oui, ça c'est parce que le modèle produit une climatologie réaliste. Absolument. C'est parce que le modèle produit une climatologie réaliste. Ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin, petit à petit, maintenant, les modèles produisent une climatologie assez réaliste. Oui, absolument. C'est une remarque. Donc, à longue échéance, oui.
Les premières prédictions ne tombaient pas du tout, enfin, étaient beaucoup moins. Enfin,
Pour le cas du Spitzberg, là. Oui, pour les premières prévisions, là, dans le cas du Spitzberg, la réalité observée après coup, pour le 19 avril 2020, était en dehors des ensembles prévus. C'est d'ailleurs un critère. Si vous avez des ensembles de n éléments, qui définissent donc n plus 1 intervalles, eh bien là, si le système est cohérent au sens que je dis, c'est-à-dire on dit qu'il est fiable, en anglais on dit qu'il est reliable, eh bien si le système est fiable, la réalité doit tomber avec la probabilité 1 sur n plus 1 dans chacun des n plus 1 d'intervalles. Bon, c'est un des diagnostics utilisés. Alors, à 6 jours, ça marche bien, mais c'est pas. C'est facile d'être. Pour une prévision statistique, c'est très bon d'être. Rien de particulièrement remarquable à être bon à 6 jours. Parce que si je prévois la distribution climatologique à échéance de 6 jours, ben, statistiquement, j'aurais raison. Mais à 24 heures, c'est moins vrai. En particulier, vous voyez que l'erreur dans l'écart aux moyennes de l'ensemble est tendant à être plus petit que la dispersion de l'ensemble. Ce qui tendrait à dire que la dispersion de l'ensemble est trop grande. Ce qui d'ailleurs est assez bizarre, puisque d'autres diagnostics conduisent à la conclusion inverse. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont mal comprises dans ces prévisions d'ensemble. Mais je dirais quand même que progressivement, lentement mais progressivement, dans l'esprit des gens qui font la prévision météorologique numérique, l'idée d'une prévision unique s'estompe de plus en plus pour être remplacée par l'idée d'une distribution de probabilités. Enfin, on ne prévoit pas un état, on prévoit une distribution des probabilités pour les états possibles. Alors, il y a là deux critères. Le premier, oui. La dispersion qui est en abscisse, mais c'est la dispersion de l'ensemble prévu. On a 50 ou 100 prévisions pour le géopotentiel à 500 km. Et on prend l'écart standard de cette de cet ensemble. Et si la réalité est une n plus unième réalisation de cette même de cette distribution de probabilité, eh bien l'erreur, la différence entre la réalité et la moyenne de l'ensemble prévu doit suivre statistiquement la distribution de probabilité. Donc
par l'erreur RMS et comparé à la réalité.
C'est l'erreur, c'est l'écart entre l'observation, en fin de compte, et la moyenne de l'ensemble. Et la moyenne de l'ensemble. Alors, il y a deux paramètres derrière ça, enfin deux propriétés qui comptent. La première, c'est ce qu'on appelle fiabilité en français et resolution, et reliability en anglais. C'est la cohérence statistique entre les probabilités prévues et les fréquences d'occurrence observées. Alors, c'est évidemment nécessaire si que les prévisions soient utiles. Si je prévois 90% de pluie pour demain, mais que dans les circonstances où je prévois 90% de pluie, il ne pleut que 40% des câbles, non. Donc, c'est indispensable. Mais c'est facile à obtenir si on prend des distributions prévues très larges. Par contre, il y a une deuxième condition qu'on appelle la résolution ou sharpness, qui est que les distributions prévues, en plus d'être fiables, soient peu dispersées. C'est-à-dire que, comme dans le cas de la température au Spitzberg. Alors ça s'appelle la résolution. Et alors ceci, il y a des critères qui représentent résolution, et ceci représente, alors il y en a un qui s'appelle le Continuous Rank Probability Skill Score. Bon, je ne vous expliquerai pas ce que c'est, mais c'est un critère scalaire qui mesure à la fois la fiabilité et la résolution, ou plutôt qui peut être décomposée en deux composantes, l'une qui représente la fiabilité, l'autre la résolution. Et on voit que pour l'Europe, comme pour l'hémisphère, pour l'hémisphère nord extratropique, c'est quelle quantité? Encore une fois, c'est le 8, maintenant c'est le température à 850 hectopascal, et on voit qu'au cours des années, ben, ce critère s'améliore. Et il mesure principalement, numériquement, il représente principalement la résolution, ce qui est vraiment la quantité qui coûte vraiment. Est-ce qu'il y a une forte corrélation statistique entre ce que je prévois et la réalité observée? Ce qui n'est pas autre chose, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la cohérence, enfin, qui n'est pas la même chose que la fiabilité. Et on voit que ça s'améliore avec un cycle annuel assez fortement marqué. Bon. Il y a des saisons aussi. Bon, donc ça, c'est pour les performances du modèle du Centre européen de Reading, dont on a pu voir sur quelques figures qu'elles sont en général meilleures que celles que celles des autres centres. Alors, il reste quand même des problèmes dans ces modèles, en particulier tout ce qui est le cycle de l'eau. Ça fait longtemps que ça dure et ça s'améliore, mais lentement. Tout ce qui est le cycle de l'eau et tout ce qui représente échange entre l'atmosphère et le milieu sous-jacent. Que ce milieu sous-jacent soit, que ce milieu sous-jacent soit l'océan ou les continents, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes qui subsistent. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y en a toujours plus, parce qu'on représente de plus en plus, par exemple, la végétation. L'interaction entre la végétation et l'atmosphère, c'est très compliqué. Comment l'eau passe de la végétation à l'atmosphère ou l'inverse? Comment l'eau qui précipite est-elle absorbée par la végétation ou par le sol sous-jacent? Et comment, si elle est absorbée par le sol sous-jacent, qu'est-ce qu'il en a, est-ce que l'eau qui précipite ruisselle pour se retrouver plusieurs des kilomètres et des dizaines de kilomètres en aval? Bon, tout ça, on n'a pas d'abord de belles équations physiques pour les représenter. C'est quand même très phénoménologique, on présente ça. Donc, ces choses-là subsistent. De toute façon, à mesure qu'on améliore les modèles, et on les améliore, il y en a de plus en plus. Donc, c'est un peu insoluble, ces questions-là. Alors, ça, c'est pour la modélisation physique. On prend les lois physiques dont on pense qu'elles régissent l'écoulement. On fait des modèles numériques qui simulent numériquement l'évolution du système sur la base de la loi physique. Bon. Mais enfin, il y a au moins une autre approche qu'on peut imaginer. C'est la recherche par analogue. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé assez longtemps, commencé à travailler là, j'ai un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu te fatigues à faire des modèles? Il suffit de prendre, enfin, il m'a dit qu'il suffisait de prendre, mais il évoquait l'idée qu'on pourra chercher les situations du passé, et puis regarder dans le passé celles qui correspondent à la situation d'aujourd'hui, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut faire une prévision à partir de ce qui s'est passé. Alors, Edward Lorenz, qui a joué un rôle très important dans le développement de tout ce qui est la connaissance de l'atmosphère du point de vue fondamental, avait étudié la question dans les années 60, et il était arrivé à la conclusion que pour que de prévisions fondées sur des analogues puissent être comparables à la qualité des prévisions de l'époque, des années 60, il faudrait 1000 ans de données. Donc, voilà la peine d'y penser. Et puis, entre-temps, les modèles se sont énormément développés, alors qu'on avait quelques dizaines d'années qui s'ajoutaient en termes d'observation. Le climat a commencé à se modifier. Donc, on pensait bon, c'est une histoire de recherche d'analogue, hein, c'était vraiment pas la voie pour. Et puis, il y a quand même deux choses. D'abord, il n'y a pas d'incompatibilité entre deux approches. On peut très bien essayer de combiner les deux. D'autre part, il y a de très nombreux processus dans les modèles numériques que nous ne savons pas établir et décrire sur la base de lois physiques bien définies. Je parlais à l'instant de l'interaction entre la végétation. L'interaction entre l'atmosphère et la végétation, il n'y a pas uniquement l'eau, il y a le frottement. Le frottement, une végétation abondante ne frottera pas sur l'atmosphère. Il y a la couleur, il y a l'albédo associé. Bon, enfin, bon, et puis surtout, la quantité de données de toute espèce et la puissance de calcul accroît vraiment rapidement. Et alors, ça a poussé des gens à utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je préfère pas parler d'apprentissage de machine, pour faire de la prévision météorologique. Alors, j'avais assez mal parlé de ça, un aspect que je ne connais pas très bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un réseau de neurones? Quels sont ceux qui savent ce que c'est qu'un réseau de neurones? Ah, pas beaucoup. Il n'y en a pas qui, dans leur travail de thèse, dans leur travail, utilisent des réseaux de neurones. Le réseau de neurones, c'est un outil ancien, hein, ancien qui est, on a des données d'entrée et des données de sortie. Un système physique, économique, biologique, dans lequel on a des données d'entrée et des données de sortie. Et on veut essayer de déterminer, enfin d'établir une liaison numérique utilisable entre la sortie et les données. On suppose qu'il y a une liaison, on est incapable de la décrire en détail, on veut le trouver comme ça. Donc on a un ensemble de données et un ensemble de sorties. Alors on essaye de définir une fonction f telle que y, la sortie, soit égale à f de x, l'entrée. On va entraîner par un certain système, par une certaine méthode, on va faire des choses sur ces ensembles de façon à déterminer les fonctions. Alors, comment construire cette fonction f? Ben, simplement par combinaison répétée d'un certain nombre de fonctions de base. Alors, ce qui a été utilisé pendant longtemps, mais les spécialistes disent que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Plus ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelait les fonctions sigmoïdes, les fonctions qui a ces... Donc des fonctions qui ont un point central, un domaine de variation de l'abscisse, et puis un domaine de variation de l'angle donné. Donc en définissant les deux points centrales, les deux coordonnées de points centraux, puis les deux domaines de variation, on obtient une fonction sigmoïde, parce que c'est à peu près la forme d'un S. Et on savait depuis longtemps qu'en combinant des fonctions comme ça, c'est-à-dire on prend des fonctions sigmoïdes qu'on applique sur x, et puis on a des fonctions de résultat, on les recombine entre eux et on fait ça à plusieurs étages, avec des coefficients déterminés empiriquement. Et on savait depuis longtemps que dans certains cas, ça marchait bien. Ça a été utilisé en particulier dans la météorologie pour définir des opérateurs d'observation. C'est-à-dire l'opération qui, par exemple, l'équation qui, partant de l'état de la nébulosité, définit le rayonnement émis par les nuages, ce qui peut dépendre de tas de choses comme la taille des gouttelettes, enfin bon, l'onction, enfin. Et alors, les spécialistes, disent que ce n'est pas ça qu'il faut utiliser, que maintenant, ils utilisent des fonctions encore plus simples, des fonctions qui sont constantes en dessous d'une certaine valeur, et qui sont purement linéaires au-dessus d'une certaine valeur. On combine des fonctions comme ça, avec affectées de paramètres, combinées entre elles un certain nombre de fois, et affectées de paramètres qui sont déterminés empiriquement, qui sont déterminés empiriquement par cherchant les paramètres qui minimisent l'écart entre Y sortie et le réseau de neurones, on appelle ça réseau de neurones, appliqué à X. Donc, un tas de paramètres dans la fonction f, qui sont déterminés par optimisation par optimisation numérique. Et alors, de façon tout à fait étonnante, c'est extrêmement. Alors, les réseaux de neurones sont très efficaces dans un état d'application. Par exemple, alors, ce que je vous disais à l'instant, dans le contexte de la simulation d'observation, ils ont été utilisés pour définir, par exemple, les opérateurs d'observation qui correspondent aux observations satellitaires. Ça a été aussi utilisé pour, dans des cas simples, déterminer des lois dynamiques. On prend Ça a été fait, par exemple. On prend un modèle numérique, on prend sa sortie et ses entrées, on fait semblant d'oublier le modèle numérique et on recherche par réseau de neurones la liaison meilleure entre les entrées et les sorties. Et on reconstitue assez bien des modèles numériques, simplement par ajustement des entrées et des sorties. Alors ça a été utilisé pour la prévision météorologique. Et il y a plusieurs logiciels fondés sur des réseaux de neurones ont été développés. Alors, il y a Pangweaver, il y a un qui a été développé au Centre européen qui s'appelle AIFS, pour Artificial IFS, software. Alors, quel a été l'ensemble d'apprentissage? Eh bien, pour tous, peut-être pas tous, c'est un ensemble d'apprentissage constitué des réanalyses effectuées précisément par le Centre européen de Reading. Le Centre européen de Reading, en plus de faire des prévisions, fait des réanalyses, c'est-à-dire prend les observations du passé, les réanalyse et assimile avec les algorithmes que je décrirai dans les cours sur le passé, avec les algorithmes actuels, c'est-à-dire la puissance de calcul et les algorithmes actuels, pour reconstituer l'histoire de l'écoulement météorologique sur de longues périodes, sur de longues périodes. Et c'est extrêmement utile. Il y en a certaines qui remontent jusqu'à l'année 1900. Il y en a, alors je ne sais pas si le centre premier en a fait, mais il y avait par exemple des gens qui se sont amusés à regarder le temps qu'on pouvait déduire pour une date ancienne. Je crois que c'est le 2 août ou le 4 août 1914, la déclaration de guerre. Vous savez peut-être que ce jour-là, le temps menaçait, et beaucoup de paysans, la France était principalement paysanne, étaient allés dans les champs pour faire la moisson de temps en primature. Et entendu le tocsin qui sonnait dans le village. Bon, c'était la mobilisation générale. Et on a retrouvé que ce jour-là, oui, à partir des observations météorologiques, oui, le temps était rogé, oui, les gens avaient eu raison d'aller faire la moisson précipitamment. Bon, alors, un certain nombre de ces algorithmes ont été développés et ont donné. Alors, c'est ça qui est remarquable, des résultats à déchéance, pour des prévisions à échéance de quelques jours, des résultats fondamentalement aussi bons que le modèle tel que le modèle HRS, et surtout un coût bien moindre. D'ailleurs, la presse, la grande presse, en a parlé quelques minutes de calcul, là où le modèle à grande échelle prend 2 ou 3 heures de calcul. Donc, un coût bien moindre, uniquement par ajustement de paramètres. Ça. On prévoit le temps à partir d'ajustements empiriques de paramètres, en oubliant la physique. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des résultats, bon, parce que je sais pas, là, bon, là c'est une situation, c'est encore pour la situation d'hier à 0 heure, je n'en parle pas plus. Je ne comprends pas parce que là, c'est l'état analysé pour hier matin 0 heure, mais le réseau de neurones prévoit un état analysé différent du modèle haute résolution, ce qui est un peu bizarre puisque dans mon analyse, l'état analysé part de la même le réseau de neurones part de la même du même état initial. Donc, il faudra que je regarde ces choses-là plus en détail, que je ne connais pas bien. Et je pense qu'ultérieurement, je vous en parlerai plus. Mais je présente ceci qui présente alors la courbe du haut. Vous avez encore ces plusieurs années. Qu'est-ce que c'est? C'est. Encore une fois, je n'arrive pas. Ah oui, l'anomalie corrélation à 500 octopascales, la même corrélation que je vous ai présentée, dans les hémisphères anthropiques au jour 5. Au cours des années. Alors, vous voyez, hein, fluctuation saisonnière assez grande. Le coefficient de corrélation, ce coefficient de corrélation, est supérieur en hiver et plus grand en hiver qu'en été. Pourquoi? Parce qu'il représente essentiellement la corrélation de la circulation à grande échelle et que en hiver, la circulation est à grande échelle, elle est principalement dominée par le gradient de température entre les basses latitudes et les hautes latitudes. À ce propos, pour le gradient de température, je ne sais pas si j'ai fait la remarque, mais je le dis, entre le jour et la nuit aussi, il y a un gradient de température. Donc on pourrait croire que ça compte beaucoup. Non, pour la météorologie à grande échelle, ça ne compte pas, parce que le jour est trop court par rapport à l'énergie même de l'atmosphère pour que les fluctuations diurnes aient un impact sur la circulation à grande échelle. Pour au niveau du sol, ça a un impact, on le sait bien. Mais, alors, donc, ce coefficient de corrélation est plus grand en hiver qu'en été. Par contre, l'erreur numérique, l'amplitude de l'erreur est plus grande en hiver qu'en été. Parce qu'en été, il y a des fluctuations dans la météorologie qui dépendent de processus à petite échelle. Le cycle diurne solaire est beaucoup plus important. Donc, l'impact du cycle diurne au niveau du sol, enfin, et même en été, dans la mesure où il existe, est plus important. Mais les amplitudes sont, en un sens, relativement petites. Donc, si le coefficient de corrélation est plus grand en hiver qu'en été, l'erreur numérique est plus grande en hiver, l'erreur est plus grande en hiver qu'en été. Bon, alors vous voyez une fluctuation pour différents services météorologiques, et puis vous voyez depuis quelques années ces systèmes d'apprentissage de machines. Et alors vous voyez, par exemple, vous voyez le AIFS du Centre européen, c'est la courbe, alors c'est pas très facile à lire, c'est la courbe en tireté rouge, qui doit être ici, et qui est à peu près similaire à la courbe du modèle HRS. Alors, il y a tout en haut un autre modèle dont je ne sais pas si le Centre européen le fait tourner, mais qui n'a pas été dedans, qui s'appelle, alors c'est Pango Weaver, ça a été développé par, en grande partie, le Pango, non, Graphcast, qui lui donne des résultats meilleurs que le modèle à haute résolution du Centre européen, pour beaucoup moins cher. Enfin, il y a le coût de l'apprentissage, mais une fois que l'apprentissage est fait, c'est pour beaucoup moins cher. Et alors là, bon, alors ça, ce sont des choses nouvelles qui, pour beaucoup de gens, étaient totalement inattendues et qui, effectivement, remettent fortement en cause la manière dont on continuera à faire de la prévision météorologique. Alors, je suis assez succinct là-dessus aujourd'hui. J'essaierai de vous en parler plus dans, mais c'est-à-dire, c'est prévu dans le programme, dans les cours qui suivront. Ça ne met pas en cause aujourd'hui l'assimilation, c'est-à-dire la définition de l'état initial dont je vais vous parler plus maintenant. Mais alors, il est déjà 11h19. Bon, donc on fait 10 minutes de pause. 11h19, on recommence à 11h30 pour. Alors. Arrêter le partage. Bon, voilà, on reprend. Partager. En ligne, vous voyez mon écran?
Oui, tout à
Oui,
fait.
très bien. Bon, alors, je. Voilà. Bon, alors ça, terminé pour les performances des modèles. Maintenant, je vous parle vraiment de l'assimilation. Alors, incidemment, pour ceux qui passent le contrôle, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ne fera pas partie du contrôle. C'est des choses que je considère indispensables pour comprendre la suite, mais ça ne fait pas partie. Oui.
Calculer théoriquement
Oui,
pour.
alors, très bien, oui, ça, alors ça, c'est ancien. Edward Lorenz, bon, quelqu'un qui a joué, en 1963, avait fait une expérience avec un modèle à trois dimensions, c'est-à-dire quelque chose de très petit, dans lequel il a mis une évidence numériquement, un modèle déterministe, inspiré par la convection fluide, par ce qui se passe dans une casserole d'eau qu'on chauffe vers le bas, mais trois paramètres seulement, et où il avait mis en évidence une sensibilité extrêmement marquée aux conditions initiales. C'est-à-dire, si dans son modèle, il changeait un tout petit peu les conditions initiales, eh bien, au bout d'un certain temps, la prévision était tout à fait démente. Alors que le modèle était parfaitement déterministe. Il n'y avait rien d'aléatoire. Et alors, il a réfléchi à la question, il a étudié comment les incertitudes se propageaient à l'intérieur d'un fluide comme par exemple l'atmosphère. Et il était arrivé qu'il y avait une différence ultime pour les détails de la météorologie, à peu près quelque chose qu'il évaluait à 15 ou 20 jours. Et c'est le célèbre effet papillon, dans lequel il dit que si un papillon bat des ailes, eh bien la petite perturbation créée par le mouvement des ailes du papillon va s'amplifier, atteindre des échelles de plus en plus grandes, avec la conséquence que 3 semaines plus tard, il se produit un cyclone, là où il n'y a pas eu de cyclone, le papillon n'avait pas battu des ailes. Et alors on estime qu'il a une limite, qu'effectivement, pour la météorologie à petite échelle, est de l'ordre de 15, de 15, d'une quinzaine de jours. Et depuis Lorentz, ça date des années 60, donc 60 ans, depuis Lorentz, cette conclusion est toujours pensée comme étant valide. Elle est étudiée. Alors, ça ne veut pas dire que, d'abord, tu parles des choses qui ne sont pas prévisibles. Le cycle de saison est évidemment prévisible au-delà de 15 jours ou 3 semaines. Mais ça, c'est parce qu'il y a un phénomène, une action extérieure, l'insolation, qui varie. L'océan, qui a aussi ses limites de prévisibilité, sont un des limites de prévisibilité qui est estimé en années et peut-être plus. La circulation profonde de l'océan varie sur des durées de dizaines, si ce n'est des centaines d'années. On ne sait pas encore très bien. Donc, mais on estime bien, oui, que pour la météorologie à cette échelle, il y a une limite de l'ordre de 15 jours. Et bon, il y a des études théoriques complexes, il y a des études numériques et qui vont en gros dans le même sens. Donc, bon, alors, je veux parler maintenant du système d'observation. Dans quoi mettons... Alors là, ce sont les observations reçues par le Centre européen de Reading. Les observations reçues. J'aurais mieux fait d'utiliser les observations utilisées, qui ne sont une grande fraction, mais qui ne sont qu'une fraction de ça. Pour une période de 6 heures, de avant-hier, 9 avril à 21 h UTC, à hier, 10 avril à 3 heures UTC. Donc une période de 3 heures. De 6 heures, situées sur 0 h UTC hier matin. Alors là, ce sont les stations au sol qui portent des noms différents, Sinop, ça c'est effectuées soit par les stations au sol, soit par des bateaux. Il y a pas mal de bateaux qui font des stations. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent la température, la pression, le vent à 10 mètres, je ne sais pas quoi, l'insolation, la nébulosité et tout ça. Alors, ces observations sont très nombreuses, vous le voyez. Elles sont effectuées par accord international à certaines heures fixes, 0 heure en particulier, 0 heure UTC, quel que soit l'heure locale. Elles sont effectuées à ces heures-là, un accord international ancien. Mais vous voyez qu'elles sont essentiellement concentrées sur les continents et les continents de l'hémisphère nord. Il y a de très vastes régions, en particulier dans les océans du Sud, où il n'y a quasiment aucune de ces mesures. Du point de vue de la météorologie, ces mesures sont très nombreuses, mais du point de vue de la prévision météorologique, la température, la nébulosité locale sont tellement déterminées par des conditions locales qu'elles ne sont pas très utiles. La pression, elle, est significative, parce que la pression ne varie dans l'espace sur des échelles assez grandes et de façon qui est significative pour la météorologie à venir. Donc, et ce sont essentiellement des mesures de pression au sol qui sont... Alors ça, ce sont les radiosondages. Ça, les radiosondages, c'est tout autre chose. Ce sont des ballons qui sont léchés et lâchés, auxquels on attache des instruments, pression, température, suivi du mouvement par GPS ou peut-être encore par des théodolites à l'œil, je ne sais pas, qui donnent donc des profils de pression, température, humidité et du vent dans l'épaisseur de l'atmosphère. Alors ça contient beaucoup plus d'informations, utiles pour la météorologie, beaucoup plus d'informations, mais là aussi concentrées sur les continents, sur les pays développés, quoi, encore. Et encore de très vastes régions, de très, très vastes régions vides d'observation. Alors il y a des bateaux météorologiques, d'ailleurs je lui en lance quelques-uns, je ne sais pas, ils sont marqués, c'est marqué Drop High Observation Dump. Je ne sais même pas s'il y a encore des bateaux. Il y avait des bateaux, mais il y en a moins, des bateaux météorologiques qui étaient à point fixe, en particulier dans l'Atlantique Nord, et qui lançaient des radiosondes. Alors c'était très coûteux. Il restait à point fixe pendant un mois. Alors rester à point fixe en hiver dans l'Atlantique Nord pendant un mois, c'était abominable pour l'équipage. Alors évidemment, l'équipage, il fallait des gens pour s'occuper de la météorologie, mais il fallait des gens faire part dans le plateau, il fallait un cuisinier, il fallait un médecin. Bon, enfin, ça au total, ça coûtait très cher. Et on pense maintenant, et je ne sais pas si un hôtel par an, que c'est avantageusement séparé par les observations satellitaires. Alors, ces observations sont elles aussi effectuées principalement à 0 heure et 12 heures UTC, quelle que soit l'heure locale, et éventuellement aussi à 3 heures et 18 heures. Ça, ce sont les observations effectuées par les avions de ligne. Alors, les avions de ligne font des observations météorologiques. Pendant longtemps, c'était confié au bon vouloir des équipages, alors se donner des résultats variables qu'en termes. Maintenant, c'est automatique. Évidemment, il y a des observations. Là où il y a des avions, il y a d'immenses régions, en particulier encore dans l'hémisphère sud, sans observation. Bon. En plus de ça, elles ne sont effectuées pas dans les vols de l'avion, mais les avions ont des horaires. Les avions, ils traversent l'Atlantique. S'ils vont d'Europe aux États-Unis, ils partent en matinée dans l'Europe et arrivent dans l'après-midi, au début d'après-midi aux États-Unis. Dans le sens inverse, ils partent le soir de New York et arrivent au petit matin à Roissy. Donc les horaires ne sont pas uniformément distribués. Alors tout ça, alors il y a un outil d'observation, les satellites. Ça c'est autre chose, il y a beaucoup d'observations satellitaires. Et ceci, c'est donc les observations effectuées par un instrument AMSUA, je vous ressens que je vais dire, même plus si ça veut dire AMSUA, porté par différents satellites. Des satellites de la NOAA, vous savez que M. Trump a décidé de diminuer les moyens de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Bon, les satellites ont. Dans les jours où on a annoncé cela, le Centre européen ne donnait plus cette information-là. D'observations effectuées par les satellites de la NOAA. On a pu craindre qu'effectivement, c'était coupé. Non, ce n'était pas coupé. Bon, alors d'autres, cet instrument est aussi porté par des satellites de la série METOP, qui eux sont des satellites européens. Et alors vous voyez les passages successifs des satellites. Alors là, oui, là, ce sont des satellites en orbite basse, quasi polaire, donc qui couvrent toutes les latitudes. Et vous voyez, comme la Terre tourne d'ouest en est et que les satellites restent par rapport à un référentiel extérieur à peu près dans le même plan, à peu près, eh bien, vous voyez les passages successifs des satellites sur la période de 6 heures. Et vous voyez qu'en 6 heures, cet instrument couvre une grande partie de la surface terrestre. Alors, du coup, ça, c'est un autre, ça, c'est les satellites. Alors, que mesurent ces satellites? Ben oui, que mesure ce satellite. Il mesure le rayonnement émis par la planète vers l'extérieur, dans différentes longueurs d'onde. Alors ce rayonnement est fonction du profil de température et d'humidité, et aussi de ce qui se passe au sol. Aussi bien au sol que suivant les longueurs d'onde, on sonde des couches différentes de l'atmosphère, ou on sonde la surface de l'océan, ou on sonde le sol, il faut savoir. Donc il faut faire le tri en tout ça pour retenir ce qui est météorologiquement utile. Alors ça, c'est l'instrument YASI, qui lui est un instrument européen, qui fait des mesures dans un très grand nombre de longueurs d'onde, qui est porté à eux par des satellites de la série METOP, et vous voyez que la distribution des observations sur une période de 6 heures est à peu près la même. Tout ça, ce sont des mesures du rayonnement infrarouge émis par la planète vers l'extérieur. Alors je vous ai dit que la Terre émet un rayonnement électromagnétique dans de longueurs d'onde qui ne recoupe pas le spectre solaire. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on sait que c'est quelque chose qui est émis par la Terre, l'atmosphère, l'océan. Donc ça, ce sont des satellites en orbite basse, comme vous le voyez, quasi polaire, avec une période qui est de 2 heures, 1 heure ou 2 heures. Alors vous avez des satellites géostationnaires, des satellites qui sont placés à une distance telle qu'ils tournent sous l'effet du champ de gravité de la Terre en 24 heures, c'est-à-dire qu'ils restent au-dessus du même endroit s'il est situé à l'équateur. Et alors, ça sert à faire des mesures. Alors, en permanence, il y a normalement en permanence 5 satellites géostationnaires suffisent à couvrir la ceinture équatoriale. Alors, bah hier, bon, il y a plusieurs. En particulier, vous avez entendu parler des satellites Meteosat. Ce sont des satellites européens qui sont mis en orbite à la longitude 0 degré en Afrique, à l'équateur, latitude. Et alors, hier, en fait, les satellites Meteosat 2, Meteosat 11, hier, il y en avait 4 satellites Meteosat. Bon, il y en a de réserve, il y en a qui sont. Ne fonctionnent toujours, mais qui sont appelés à disparaître et en remplacer. Mais il y en a qu'un. Alors, ça représente fait des mesures dans des longueurs d'onde qui permettent de mesurer la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. J'adore que je ne sais pas très bien pourquoi c'est utile d'utiliser des satellites en orbite géostationnaire pour mesurer la vapeur d'eau, mais c'est le cas. Alors, ça, ce sont d'autres mesures effectuées par les satellites géostationnaires. C'est dans le visible, ou alors là, en observant. Et les nuages, on peut observer le déplacement des nuages, donc une estimation du champ de vent. Donc une estimation du champ de vent. Ce n'est pas nécessairement le champ de vent, parce qu'il y a des nuages au-dessus des montagnes, qui sont stationnaires au-dessus de la montagne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la région de Chamonix, mais au-dessus du Mont Blanc, il y a souvent un nuage là, au sommet du Mont Blanc qui est fixe. Il n'est pas dû à un mouvement du. Il dénote un vent, mais c'est parce que le vent qui monte sur la montagne. L'air se refroidit, l'eau condense, donc forme des gouttelettes d'eau, un nuage, ça redescend, l'eau se réévapore, donc il y a un nuage fixe qui dénote la présence de vent, mais qui ne dénote pas l'intensité du vent. Bon, alors hier matin, les satellites Meteosat n'ont pas. Évidemment, pour qu'il y ait des nuages, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des nuages sur le Sahara. Hein. Pas beaucoup. Bon, alors encore autre chose, GPS, les signaux GPS. Les signaux GPS ont été développés, les satellites GPS ont été mis en orbite pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec météorologie au départ. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des signaux transmis d'un satellite à un autre, des satellites dont la localisation est très bien est connue avec une très grande précision. C'est nécessaire pour l'objet même de la localisation du GPS. Et donc, on a des mesures, des signaux qui se propagent soit entre deux satellites GPS, soit entre les satellites GPS et la Terre, à partir de satellites quand leur position est très bien connue. Et la vitesse de propagation, ou plutôt la courbure de la propagation, fournit un espèce de sondage de la température et de l'humidité le long du chemin. Et ça s'est avéré, après coup, extrêmement utile pour la météorologie. Et ça, ce sont des mesures effectuées par le GPS. Alors, sur ces différentes figures, vous avez le nombre d'observations. Enfin, là, hier matin, vous avez 67 000 observations GPS. Une observation, là, je pense que c'est un rayon, mais peut-être plusieurs. Entre deux mêmes satellites, je ne sais pas. Quand il s'agit, par exemple, quand il s'agit des satellites, c'est un rayon, je pense, c'est beaucoup plus qu'une valeur scalaire. Et quand il s'agit en particulier des radiosondages, quand il s'agit des radiosondages, quand ici il est marqué 1082 radiosondes, ça veut dire qu'on a lancé 1093 nuages. Sonde, et que chaque sonde a produit un profil de température, d'humidité, de pression et un profil du vent. Donc, c'est le nombre d'observations, ce n'est pas le nombre de quantités scalaires. Alors, je ne présente que ça, hein, il y a des dizaines d'instruments divers, je ne les présente pas tous. Alors, ça, c'est la quantité de données utilisées par le Centre européen sur une période de 24 heures. Alors, ça date de 2014, 10 ans. 40 millions sur 24 heures. Aujourd'hui, ça resterait. Alors qu'il y a eu une époque dans la première décennie des années 2000 où le nombre d'observations a augmenté de façon extrêmement importante, depuis, c'est resté à peu près stationnaire. Incidemment, les observations dites conventionnelles, c'est-à-dire celles qui sont effectuées à partir du sol, soit au sol, soit par radio sondage, effectuées simultanément par convention internationale dans toutes les stations météorologiques du monde, constituent, en termes de nombre, une quantité très petite, c'est ce que vous voyez en bleu ici, de l'ensemble des observations. Mais très petite, mais quand même, au total, un contenu d'information très utile, malgré leur nombre relativement réduit. Alors, parmi ces observations, il y a ce qu'on appelle les observations synoptiques. Je ne sais pas encore dire le mot. Ce sont celles qui sont effectuées au sol et la radiosonde, qui sont, par un agrément international, effectuées au même instant dans toutes les régions. Et puis, il y a les observations asynoptiques, celles qui viennent plus ou moins continuellement, les satellites, bien sûr, les avions, et qui, bon, effectuent plus ou moins régulièrement dans le temps. Alors évidemment, les observations synoptiques, comme je vous l'ai montré, sont très concentrées, en gros, sur les continents de l'hémisphère nord. Les observations satellitaires, elles, sont distribuées aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et pour les satellites en orbite basse, les hautes latitudes sont plutôt plus observées parce que les fossés successifs, les passages successifs d'un même satellite recouvrent la même région, tandis qu'à l'équateur, elles sont plus dispersées. Par contre, les observations effectuées par des satellites géostationnaires sont concentrées sur la bande équatoriale. Elles viennent d'un tout instant, mais elles sont concentrées sur la bande équatoriale. Pour la météorologie, les orbites quasi-polaires, les orbites basses quasi-polaires et les orbites géostationnaires sont à peu près les seules qui soient utilisées. Il n'y a pas de satellites comme d'autres applications avec une très grande électricité, pas de genre. Bon. Alors, en plus de ce caractère synoptique ou non synoptique, correspondant à des observations dont non seulement la distribution temporelle, mais la physique est différente, il y a deux genres de choses. Les observations qu'on peut dire directes, c'est-à-dire qui portent sur les quantités que l'on utilise pour les besoins de la météorologie, et celles qu'on souhaite prévoir, température, pression, composante horizontale du vent, humidité. Il y a peu d'observations directes du vent. Il y en a. Il y avait un satellite qui s'appelait Eolus, qui par lidar mesurait le vent, il y avait des couvertures de vent, mais ce satellite ne tourne plus. Il y a des projets de renouveler, mais enfin, il y a peu d'observations directes du vent. L'approximation géostrophique, bien entendu, donne une estimation du vent dans les latitudes moyennes à partir des observations de pression, à partir de la distribution de masse, c'est-à-dire la présomption de pression et de température. Et puis il y a les observations indirectes, en particulier les observations effectuées par radiométrie, les observations effectuées par les satellites qui mesurent le rayonnement émis principalement dans de longueurs d'onde. Ces observations en direct sont presque toujours des intégrales d'une certaine quantité sur un certain chemin. Et alors ces observations dépendent de ce qu'on souhaite reconstituer, c'est-à-dire des champs de température, pression, vent, par une fonction plus ou moins compliquée que je note Y égale H de X, où H est ce qu'on appelle l'opérateur d'observation. Alors, je vous l'ai dit, les réseaux de neurones dont je parlais tout à l'heure ont été utilisés en météorologie avant d'être utilisés à la prévision, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ont été utilisés pour déterminer ces opérateurs d'observation, ou plutôt pour compléter la précision, la description des opérateurs d'observation au-delà de ce qu'on en sait de la physique de l'instrument. Alors donc ça, à peu près le système d'observation. Très grand nombre d'observations, très variables dans leur distribution spatiale, leur distribution temporelle, leur nature physique, leur précision, leur résolution spatiale et temporelle. Oui.
Pour donner un état de l'atmosphère
Oui.
à température, par exemple, à 10 heures ou à minuit pour la fin de la journée, mais c'est ramener, nous interpeller sur.
Ben, c'est l'objet de l'assimilation. Ce que vous dites, interpoler, enfin, combiner toutes ces observations ensemble, plus un modèle d'écoulement, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Et c'est ce que je voulais expliquer de mes cours.
Un état de l'atmosphère à un instant donné, ou alors on les prend tel quel. Est-ce qu'on essaie de les remettre
Oui,
sur la même
mais
ligne
alors,
ou pas?
oui et non, le but final le but final de l'assimilation, c'est d'obtenir une description de l'état atmosphérique qui prend en compte tout ce que l'on sait, observation et dynamique. Donc, en un sens, c'est ça. Mais il n'y a pas, non, non, il n'y a pas vraiment de stade intermédiaire, si c'est ça la question que vous voulez. Par exemple, oui.
Proprement parler, utilisé pour faire un état à l'instant T de l'atmosphère. C'est
Si, le résultat de l'assimilation, c'est ça. C'est un état dans l'instant. Pardon?
ça passe par l'assimilation pour
Oui,
avoir
il faut qu'elle passe par
une idée.
l'assimilation. Oui, il faut qu'elle passe par l'assimilation. On a plus ou moins essayé au départ, et puis on s'est rendu compte, par exemple, qu'on ne pouvait pas ignorer la dynamique de l'atmosphère sur une période de 6. On avait des observations distribuées sur 6 ou 12 heures. Il était évident que les observations de 6 heures pouvaient être utiles, mais on ne pouvait pas ignorer le fait que l'écoulement lui-même avait varié sur 6 heures. Donc, il fallait introduire une description de la dynamique. Alors, effectivement, l'idée ancienne, qui date d'avant la prévision météorologique numérique, d'avoir des observations synoptiques, c'était bien cette idée-là. Les gens disaient, il faut que l'on ait une description de l'atmosphère à un instant donné, dont toutes les mesures, où qu'on soit dans le monde, seront faites simultanément, de façon à avoir un instantané. C'était bien l'idée qui existait au départ. Mais le système d'observation, qui en particulier apporte en permanence des observations asynoptiques et les progrès de la modélisation numérique, ont fait qu'on a abandonné qu'on a abandonné en pratique cette idée. Bon, alors je parle brièvement de l'océan. Il y a aussi des observations de l'océan. Alors l'océan est beaucoup plus difficile à observer parce qu'il a une propriété, il est à peu près opaque à toute forme de rayonnement électromagnétique. J'ai peut-être dit, mais si certains d'entre vous ont fait de la plongée sous-marine, ils savent très bien qu'à 30 mètres, il fait déjà beaucoup plus sombre, beaucoup moins clair qu'à la surface. Alors, donc, opaque à quasiment toute forme de rayonnement électromagnétique. Ce n'est pas commode du tout pour les gens qui veulent observer l'atmosphère. C'est très commode pour les gens qui veulent se cacher au fond de l'océan avec, par exemple, un sous-marin et des missiles sur le sous-marin qui peuvent aller directement se placer à un endroit où on ne les repère pas. Bon. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, parmi les mesures de l'océan, il y a, oui, alors il y a des choses d'ailleurs qui servent aussi pour l'atmosphère, c'est la hauteur de la surface de l'océan. La hauteur de la surface de l'océan varie en fonction des marées, bien sûr, des courants, et en particulier du fait de l'équilibre géostrophique, la hauteur de la surface de l'océan donne une idée de la distribution de la vitesse puisque la vitesse et la force de Coriolis qui équilibre à peu près la force de pression, et la force de pression dépend de la quantité d'eau au-dessus. Donc de la hauteur de la hauteur de la surface de l'océan, on peut dire quelque chose sur la distribution de la vitesse à l'intérieur de l'océan. Et alors ça, il y a des satellites, non, qui mesurent, alors ça c'est un truc, qui arrivent à sortir un signal, pris en compte, une fois pris en compte l'effet des marées et l'effet de la houle, un signal d'une précision utile avec une précision de 2 cm. On pourrait se dire, quand on voit les vagues, mais 2 cm sur la surface de l'océan, c'est inaccessible. Enfin, les spécialistes disent que si, c'est inaccessible. Alors, parmi les programmes d'activité d'observation de l'océan, il y a le programme Argo, qui est un programme international qui existe depuis 20 ans, dans lequel il y a des flotteurs qui circulent dans l'océan à des profondeurs diverses, mais principalement à 1000 mètres, en mesurant la température, la pression, certains paramètres biogéochimiques. Et puis, tous les 10 jours, ces flotteurs vont à la surface, envoient toutes les données qu'ils ont accumulées à un satellite, des satellites. Le déplacement des flotteurs individuels donne une information sur les courants, parce qu'ils suivent les courants. Et donc, c'est un système d'observation permanent de l'océan qui apporte des tas d'informations utiles. Donc, voici ça, c'est les flotteurs observés dans les 12 derniers jours, ça date du 6 avril. Alors, je pense que ce sont les flotteurs américains, parce que chaque pays contribue, ces flotteurs. Alors là, ça date de 2018, c'est pas tout récent, mais ça montre les flotteurs des différents pays. Vous voyez des couleurs différentes qui montrent les différents pays. Bon, je ne sais pas très bien quoi. Mais enfin, il y a des flotteurs dans tout l'océan, donc qui se promènent en profondeur, et puis qui, tous les 10 jours, ou quelque chose comme ça, sortent et envoient, crachent leurs données à un satellite qui les récupère. Encore autre chose, des mesures de tomographie, c'est-à-dire tomographie acoustique. On envoie un signal sonore entre deux stations, aller et retour. Donc, la vitesse de propagation, c'est la combinaison de la célérité du son et de la vitesse de la vitesse de courant. Donc, par somme et différence, on obtient la célérité du son, qui est une mesure de la température, et la composante de l'océan et la composante de. Bon, alors ça, donc, c'est très brièvement décrit, mais enfin, ce qu'on observe aussi pour l'océan, pour lequel il y a des problèmes similaires à ceux de l'atmosphère, mais encore beaucoup plus difficiles. Enfin, l'océan est beaucoup moins connu et beaucoup plus difficile à observer que l'atmosphère. Donc, et en plus de ça, la circulation profonde de l'océan, on commence à s'y intéresser, varie sur des échelles de temps de plusieurs dizaines d'années, ou plus, comme je disais, si bien que comme les observations sur l'océan sont encore relativement récentes, ce qu'on observe de l'océan est peut-être, au fond, un échantillon assez bref sur une évolution beaucoup plus longue. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Bon. Alors, le problème de la simulation, c'est ça. Reconstruire aussi précisément que possible l'état de l'écoulement atmosphérique ou océanique à partir de toutes les observations dont on dispose. Alors, de toutes les. Oui, les informations. Alors, les informations constituent pour l'essentiel des observations qui varient nature, résolution, précision et qui sont distribuées plus ou moins régulièrement dans le temps et dans l'espace. Et puis la deuxième sorte d'information, ce sont les lois physiques qui gouvernent l'évolution du flot, de l'écoulement, qui sont disponibles en pratique, au moins jusqu'à présent, sous la forme d'un modèle numérique discrétisé et nécessairement approché, à être exact. Il faut combiner tout ça. Alors il y a d'autres sources d'informations qui peuvent être utiles. Par exemple, l'équilibre géostrophique des latitudes moyennes. Bien que l'équilibre géostrophique soit une conséquence des lois physiques, si l'océan et l'atmosphère sont un équilibre géostrophique, c'est parce que les lois physiques le déterminent. D'ailleurs, si on prend un modèle numérique et qu'on le fait partir d'une situation non géostrophique, eh bien, le modèle numérique tout seul reconstitue un équilibre, un écoulement géostrophique. Ce qui a eu pour effet que la raison profonde de l'existence de l'équilibre géostrophique a été un peu négligée, parce qu'au moins pour les gens qui faisaient de la prévision météorologique, bon, ils avaient à s'en inquiéter, mais ce n'était pas un problème majeur. Donc, ce sont ces. Ou alors, il y a aussi un équilibre encore plus difficile à décrire entre le champ d'humidité et les champs d'humidité et la température. C'est évident qu'il y a un lien entre les champs d'humidité et la température. Mais quel est cet équilibre en général? Le fait est qu'on ne sait pas très bien le dire. Alors, ces réalités sont des conséquences des lois qui régissent l'écoulement, mais on peut quand même les introduire dans le processus de la simulation en disant, par exemple, que le champ de masse et le champ de vitesse dans l'atmosphère ou dans l'océan doivent être, dans les latitudes moyennes, en équilibre géostrophique rapproché. Peut l'introduire comme une contrainte dans l'ensemble de vos processus. Alors tout ce monde-là est affecté d'une sorte d'incertitude. Donc il y aura une incertitude sur le résultat final. Il faut la connaître, parce que c'est l'incertitude sur l'état final, sur l'état initial de la prévision, qu'on peut déterminer, en particulier par la méthode d'ensemble, la méthode d'ensemble que je vous ai dite, qu'on peut déterminer l'incertitude sur la prévision à venir. Alors, il se trouve que l'incertitude est assez est assez bien décrite mathématiquement, c'est les lois de probabilité. Représenter une incertitude par une distribution de probabilité, c'est commode. Bon, je veux dire que ça tombe sur le sens, mais enfin, c'est commode. En particulier, si on a déjà un état, une distribution de probabilité pour l'état actuel, que des observations nouvelles ou que des informations nouvelles deviennent disponibles, on peut mettre à jour la loi de probabilité dont on dispose. Il y a une loi, une équation, l'équation de Bayes, qui fait ça très simplement. Donc on a un algorithme simple, une méthode simple, pour mettre à jour une distribution de probabilité compte tenu des nouvelles observations dont on dispose. Et alors de ce point de vue-là, l'assimilation, c'est un problème d'estimation bayésienne. Bon, vous savez qu'on parle bayésien pour la notion de probabilité conditionnelle. P de A connaissant B est égal à la probabilité de A et B simultanément divisé par la probabilité de B. Je ne sais pas si vous avez vu après ça en classe de terminale, sinon même avant, la loi de Bayes, qui donc. Alors évidemment, le but, donc, déterminer la probabilité conditionnelle de l'état du système conditionnée à tout ce que l'on sait. Donc on peut poser le problème d'assimilation de cette manière-là. Je ne dis pas qu'on doit le poser de cette manière-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des choses qui sortent de cette logique. Mais cette logique a l'avantage d'être globale et à tout instant, en quelque sorte, d'aider à comprendre ce qu'il faut faire. Avoir une logique d'action, même si elle est contestable par certains côtés, est souvent préférable à faire les choses de hasard. Donc, c'est une approche, et c'est l'approche que beaucoup de gens, et moi en particulier, prendraient dans mon cours. Un problème d'estimation bayésienne. Alors, oui. Pourquoi? Ah, pourquoi elle est contestable? Bon, effectivement, on peut se poser la question. Ben, il y a déjà un problème. Pour le mettre en œuvre, il faut que toute sorte d'information soit associée à une distribution de probabilité. Or, on n'en a pas forcément. Donc après tout, on peut peut-être essayer de faire des choses, mettre des distributions de probabilité fondées sur des arguments physiques, enfin des choses comme ça. Non, vous me demandez pourquoi elle est contestable? Je ne dirais pas qu'elle est contestable. J'ai dit qu'il faut être prêt à faire des choses qui n'entrent pas dans cette logique-là si on a des raisons de penser qu'elles peuvent être utiles. Je dirais plutôt ça. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être prise de façon dogmatique. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, non, qui, en particulier dans les débuts de la météorologie, qui n'entraient mal dans le cadre d'estimation. D'ailleurs, il y a des algorithmes. Bon, je vous parlerai de filtre de Kalman. Le filtre de Kalman a une description probabiliste explicite, mais à une certaine époque, dans les années 70, les météorologistes utilisaient des algorithmes dont je parlerai, qui, en quelque sorte, sont le filtre de Kalman du pauvre, dans lequel l'aspect probabiliste n'était pas explicite, mais qui était, d'un point de vue empirique, et non, quelque chose qui. Les gens faisaient de l'estimation bayésienne sans vraiment s'en rendre compte. Ben, ils n'avaient pas tort. Mais ils n'avaient pas conscience que c'était. Qu'il y avait la définition de probabilité conditionnelle derrière ça. Oui.
Vous avez, en termes de données, sur des mesures, des lois physiques et des comportements cinétiques, est-ce qu'on peut avoir faire de l'assimilation si on n'a pas les trois, par exemple, si on n'a que.
Ah, oui.
Mais on connaît les comportements.
Oui, on pourrait. Bon, on ne peut pas dire qu'on le fait aujourd'hui, puisque aujourd'hui, l'assimilation utilise la physique. Quoique je vous ai parlé d'apprentissage machine, il y a des gens qui s'intéressent à l'utilisation de l'apprentissage machine pour l'assimilation. Ou peut-être, les modèles, la dynamique introduite dans l'assimilation sera à terme, au moins dans certaines applications, remplacée par des algorithmes qui sortent d'apprentissage de machine. C'est pas impossible. Il y a des gens qui pourraient y travailler là-dessus.
Pas les voies physiques. Imaginons qu'un processus, on n'a pas la description théorique de son comportement.
Oui.
On peut mettre, par exemple, la prédiction de l'IA comme loi physique.
Oui, peut-être, oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que les développements de l'apprentissage machine conduit, dans beaucoup de domaines, vous le savez bien, mais conduit à une remise en cause de méthodes qui pouvaient paraître très bien établies. Alors, cette remise en cause, jusqu'où conduira-t-elle? Moi, je n'en sais rien. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent. Même dans le domaine de la météorologie, je ne sais pas où il va conduire. Est-ce qu'un jour, toute la science de la météorologie sera faite uniquement sur la base des observations? On aura les observations qu'on mettra dans des moulinettes algorithmiques qui sont issues de l'apprentissage machine, et que les lois physiques sont oubliées. Je ne crois pas. Les lois physiques, je pense qu'elles seront toujours utiles, mais probablement moins systématiquement utilisées qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent. Bon, enfin, l'assimilation, c'est une forme de problème inverse. Les problèmes inverses, c'est les problèmes dans lesquels on veut déterminer l'état d'un système physique, biologique, économique, à partir de données qui ne sont simplement pas dans le bon format. Un exemple qui d'ailleurs a servi beaucoup pour le développement des méthodes de l'os, c'est la géophysique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre? Bon, vous savez qu'il y a un manteau, un noyau, à l'intérieur du noyau, un noyau liquide, enfin bon, un manteau solide, un noyau liquide, ça dépend à quelle échelle de temps on se place. Et puis à l'intérieur du noyau liquide, une graine solide. Mais tout ça, on le sait, principalement à partir de l'observation des ondes sismiques. On a inversé les. Alors, il y a d'autres choses. Il y a le flux de chaleur qui vient de la Terre, il y a le champ magnétique, il y a les fluctuations de la rotation terrestre qui sont dues en partie. Enfin, il y a d'autres sources d'informations, mais c'est essentiellement l'observation des ondes sismiques qui a permis d'identifier s'il y a à l'intérieur de la Terre. La physique des plasmas, très important pour quelque chose dont vous avez entendu parler, la fusion contrôlée. La fusion nucléaire, ça existe dans les étoiles, c'est là qu'il y a l'énergie des étoiles, ça existe artificiellement en forme d'un bombage. Bon. On fait fusionner des atomes d'hydrogène pour obtenir des atomes d'hélium, et du coup, il y a une énorme quantité de masse et d'énergie qui est libérée. Artificiellement, la fusion nucléaire n'est pas contrôlée. On fait une bombe, et puis c'est tout. Mais vous savez qu'on essaye de contrôler la fusion de façon à produire des quantités d'énergie qui pourraient être extrêmement importantes. Et vous avez entendu parler du projet ITER, là, qui est installé à Cadarache, en Provence, qui est un projet international pour faire progresser la fusion contrôlée. Alors le problème avec la fusion contrôlée, c'est que les gens disent encore 50 ans et puis on y arrivera. Malheureusement, ça fait déjà 50 ans qu'ils le disent. Donc, bon. Des choses beaucoup plus simples. Les structures métalliques dont on veut savoir comment ça fait à l'intérieur. Quand j'étais petit, il y avait des machines à vapeur. Quand on allait à la gare à Paris, il y avait énormément de bruit. Ça faisait un bruit. Les machines à vapeur, ça faisait un bruit. Mais parmi les bruits des gares, il y avait des ouvriers qui avaient des grosses masses et qui tapaient sur les bielles des roues des locomotives, pour voir s'il n'y avait pas une fêlure à l'intérieur d'une bielle. Parce que si une bielle se cassait alors que le train était en route, bon, le train déraillait. Donc pour vérifier qu'il n'y avait pas de fêlure, ben, on tapait, tu sais. Et puis si on avait l'habitude, on pouvait très bien entendre au son que c'est un problème inverse. La navigation, c'est un problème inverse. Savoir où on est, savoir où une sonde qui a été envoyée Mars, un satellite, où il est exactement. On a un certain nombre de mesures à partir desquelles on détermine sa position, son attitude, et je vous le fais. Des problèmes inverses, il y en a partout. Et la plupart sont résolus sur la base d'une approche bayésienne et probabiliste. les équations d'estimation, quel que soit le domaine, sont en fait les mêmes, avec un vocabulaire tout à fait différent, mais quel que soit le domaine, c'est toujours les mêmes. Alors, parmi les difficultés associées à l'assimilation des spécifiques à l'assimilation des observations météorologiques, il y a la très grande dimension numérique des problèmes à étudier, 10 puissance 5 à 10 puissance 9 paramètres à estimer, avec un nombre d'observations de l'ordre de 10 puissance 6, 10 puissance, 10 puissance 6, 10 puissance 7, difficulté aggravée par le fait que la prévision doit arriver à temps. Donc il faut faire tout le calcul à temps pour arriver à temps. Et puis en plus de ça, le système évolue en permanence, y compris sur la période de temps en 24 heures sur laquelle on va utiliser les observations. Ça, c'est un problème différent du problème, par exemple, des géophysiciens qui veulent connaître la structure interne de la Terre et qui peuvent toujours, plus tout à fait maintenant, mais qui pendant longtemps pouvaient utiliser des observations sismiques vieilles de 100 ans pour déterminer la structure intérieure de la planète. Bon, alors, quelle heure est-il? 12h13. Bon, ben je vais quand même terminer en présentant un exemple simple. Bon, ça c'est pour dire que la quantité de ressources utilisées dans la prévision, pour l'assimilation dans la prévision météorologique a régulièrement augmenté au fur et à mesure. Bon, je ne bon, je dirais pas, mais l'assimilation est devenue quelque chose de très important, y compris. Bon, alors, un exemple simple. Je rappelle ce que c'est qu'une variable gaussienne. Une variable gaussienne de moyenne M et de variance A. J'utilise A pour la variance, je n'utilise pas sigma 2, comme on l'utilise souvent, pour des raisons qui ont à voir avec des formules que j'utiliserai avant. A, une distribution de densité qui est égale à exponentielle de xi, alors au point xi, la densité locale, c'est exponentielle de xi moins m au carré, m c'est la moyenne, divisé par 1 sur 2a, un signe au moins, donc la courbe en cloche. Si je considère une variable gaussienne non pas unidimensionnelle, mais dans un espace de dimension n, alors on a aussi une exponentielle, mais l'exponentielle maintenant est définie par une matrice A, la matrice de covariance de la matrice, et le terme 1 sur 2a est remplacé par xi moins n. Maintenant, ce sont des vecteurs des dimensions n. M est la moyenne des dimensions n, et A est une matrice carrée des dimensions n. Alors, c'est xi moins n transposé, horizontal, multiplié par 1 moins 1, multiplié par xi moins n vertical. Donc, un vecteur horizontal, une matrice carrée, une matrice verticale, c'est donc un scalaire, divisé par moins 1,5, et mi qui va exponentielle de moins 1,5 de ce machin-là. Et alors, il y a un coefficient de normalisation devant, tel que l'intégrale de tout ça sur l'espace tout entier soit égale à 1, et cet intégral est égal à racine, l'inverse de la racine de 2 pi à la puissance n, multiplié par le déterminant de la matrice A. Mais ces coefficients de normalisation, je ne les utiliserai pas, je n'en aurai pas besoin. Je les ai mis là pour que ce soit complet, mais je ne les utiliserai pas. Et alors, je pose le problème suivant, ça me terminera là-dessus. Je veux déterminer une quantité x scalaire. Je dispose de deux éléments d'information, que je vais appeler Z1 et Z2. Ça peut être des mesures, ça peut être une température et j'ai deux thermomètres, par exemple. Z1 est égal à l'inconnu x plus une erreur Z1. Que je ne connais pas. Mais je suppose que Z1 suit une loi gaussienne de moyenne 0 et de variance S1. C'est bien que la densité de probabilité correspondante est proportionnelle à exponentielle de moins Z2 sur 2S1. Et puis, j'ai une deuxième source d'information. Z2 égale X plus Z2. Et je suppose que Z2 suit une loi gaussienne de moyenne nulle et de variance S2. Donc, une densité de probabilité proportionnelle à exponentielle de moins Z2 sur 2S2. Je suppose que les erreurs de l'état 1 et de l'état 2 sont immédiatement indépendantes. Donc, de mesure indépendante. Quelle est la probabilité que mon inconnu x, je me fixe une valeur xi, quelle est la probabilité que x soit égal à xi, connaissant z1 et z2? C'est le problème que je pose. Qui connaît la réponse? J'ai donc deux mesures affectées d'une erreur gaussienne. Je connais les variances de cette erreur gaussienne, c'est l'erreur de gaussienne de moyenne nulle. Oui. On fait la multiplication des deux probabilités. Oui. Et qu'est-ce que ça donnera?
Sachant
Oui.
que c'est indépendant, vous l'avez
Oui.
dit. En P1 de x égale zeta, sachant
Oui.
z1 et z2, c'est juste
D'accord.
l'application.
D'accord. Bon, ben, très bien. Vous, c'est, oui, c'est la solution au problème. Alors, je le détaille, mais c'est la solution au problème. Alors, que x, je me pose la question de savoir si x est égal à xi. Ça veut dire que zeta 1 est égal à z moins xi. Et que zeta 2 est égal à z moins xi. Donc la probabilité que zeta 1 soit égal à z moins xi, c'est p1 de z moins xi. P1, c'est la densité de probabilité correspondante. La probabilité que zeta 2 soit égal à z moins xi, c'est p2 de z moins xi. P2, la distribution de probabilité correspondante. La probabilité que les deux soient vrais simultanément, c'est ce que vous avez dit, le produit des densités de probabilité. S'il y avait une corrélation entre les deux, on pourrait la prendre en compte ici. Hein, le calcul sera un peu plus complet. Alors j'ai ce produit des deux probabilités, qui sont des exponentielles. Exponentielle A multipliée par exponentielle B, c'est égal à exponentielle de A plus B. Donc je fais le calcul, je tourne la manivelle algébrique, et je trouve que tout cela, c'est proportionnel à exponentielle moins xi. Moi, c'est une certaine quantité xa au carré divisé par 2 multiplié par une quantité pa. Où xa, c'est. Où pa est défini par 1 sur pa égale 1. Alors, ça, c'est une loi gaussienne. C'est une loi gaussienne. Donc, la loi de probabilité conditionnelle pour ma température est une loi gaussienne, dont la moyenne et la variance sont XA et PA. Alors PA, c'est égal, on fait le calcul, hein, 1 sur PA égale 1 sur 1, 1 sur S1 plus 1 sur S2. Et XA, c'est une moyenne pondérée des deux mesures Z1 et Z2, pondérée avec un coefficient inverse de la variance correspondante. C'est-à-dire qu'on donne un gros poids à Z1 si S1 est petit, et un petit poids, et au contraire, un petit poids si S1 est grand. Donc on pondère, et puis PA, c'est 1 sur S1 plus 1 sur S2, c'est-à-dire que ça, c'est bien une pondération avec deux poids égal à, dont la somme est égale à 1. Donc on prend la moyenne pondérée des deux mesures, une variance qui est égale à 1 sur 2, et ça donne la loi de probabilité conditionnelle. Alors, je prends la voie frontière ici. Là, vous avez les deux mesures. En bleu, une mesure avec une variance assez grande. En vert, l'autre mesure avec une variance plus petite. Et en rouge, la loi a posteriori. La loi. Alors, c'est une loi gaussienne centrée au barycentre des deux mesures et qui a une variance plus petite que chacune des deux lois préventives. 1 sur PA égale 1 sur S1 plus 1 sur S2. Donc, PA est plus petit que S1 et que S2. Et donc la loi rouge. Et quand vos PA, quand S1, quand les deux mesures se déplacent, mais en gardant les mêmes caractéristiques d'erreur, eh bien la valeur estimée se déplace. Elle suit le barycentre des deux valeurs. Mais elle reste la même. Elle reste la même. Donc j'obtiens une loi gaussienne qui ne dépend en fait que des deux mesures et des incertitudes associées. Alors, je le dis tout de suite. Ah oui. Alors, vous pourriez obtenir le même résultat en minimisant simplement, en disant, bon, ben, je veux que Xi soit proche de Z1 et de Z2, compte tenu de leur précision relative. Donc, je vais prendre Z1 moins Xi au carré divisé par 1 sur 1, par S1. S1, c'est la variance de l'erreur sur Z1. Donc, je donne un gros poids si S1 est petit, et puis un petit poids si S1 est grand, plus Z2 moins Xi au carré sur S2, et je trouve le Xi pour lequel ceci, pour lequel ceci est minimum. Le point qui minimise les erreurs aux observations. Je trouve la même valeur. D'ailleurs, la loi conditionnelle gaussienne que je viens de donner est proportionnelle à l'exponentielle de ça, de z moins xi, qui, à une constante multiplicative près, est exactement ça. Et sans même parler de gaussienne, je peux faire ça sans parler de la gaussienne. Ouais, simplement, c'est une idée assez élémentaire. Hein. Je minimise les écarts aux observations, compte tenu de la précision des observations. Et alors, je peux aussi auto faire ça, sans parler de loi gaussienne, je peux parler de chercher la combinaison linéaire de Z1 et Z2 qui minimise l'erreur entre l'état estimé et l'état réel au carré pris en moyenne statistique. Simplement une loi de probabilité, gaussienne ou pas. J'obtiens la même chose et j'obtiens ce qu'on appelle le best linear unbiased estimator. Bon. Alors. Oui, alors j'avais quand même deux remarques. Déjà, si au lieu de prendre des lois gaussiennes, je suppose que les erreurs de l'état 1 et de l'état 2 sont affectées d'une erreur d'exponentielle simple. La probabilité de l'erreur de l'état est proportionnelle à l'exponentielle, non pas de moins Z2 sur A, mais de moins Z sur valeur absolue, moins valeur absolue de Z sur A. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une gaussienne, une courbe en cloche, j'ai une courbe avec un point angulé à l'origine. La variance de ça, c'est 2Z2. 2Z2, où il y a une petite. D'accord. Et je fais le même calcul. Je n'obtiens pas du tout une loi comme ça. J'obtiens une loi de probabilité conditionnelle qui est. Je ne peux pas faire ça au tableau parce que à cause de du zoom. Mais une loi de probabilité conditionnelle qui est. J'ai mes deux observations, qui est constante entre les deux observations et qui ensuite décroît exponentiellement, mais qui est constante entre les deux observations, qui n'est pas de ce type-là. Pire que ça, la variance associée n'est pas, dans le cas gaussien que je viens de décrire, la variance de l'erreur sur l'estimé est indépendante de la valeur des observations. Dans ce cas-là, elle dépend de la valeur des observations. Elle peut même devenir plus grande si les deux observations sont par extraordinaire très éloignées. L'erreur, l'incertitude sur l'état final peut devenir plus grande que l'erreur sur chacune des deux mesures. Ce qui peut paraître tout à fait absurde. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, je me dis, mais c'est. Non, c'est pas. Si on trouve ça. Pour que l'erreur sur l'état final soit plus petite que l'erreur sur chacune des éléments d'information entendus dans le système, il faut, enfin, pas nécessaire, ça n'est garanti que dans le cas gaussien. Dans le cas gaussien, ça peut ne pas être vrai. Et je ne. Oui?
Moi, ça ne me semble pas
Oui, c'est pas logique.
vraiment. Parce que si en fait on a deux mesures et les incertitudes en fait se recouvrent pas, c'est pas pourquoi faire, non?
Cette loi d'erreur n'est pas bornée. Donc,
Ah oui, ça se
on peut
recouvre pas.
avoir deux mesures avec chacune une loi d'erreur localisée pour l'essentiel d'origine intérieure, mais qui n'est pas bornée. Bon, donc, il peut y avoir un recouvrement. Mathématiquement, il n'est pas impossible qu'il y ait un recouvrement. Pour le cas gaussien aussi, d'ailleurs. Le gaussien ne sera pas. Mais dans ce cas. Effectivement, bon, d'abord, je dis tout de suite, je signale ça pour, en quelque sorte, une remarque que je pense être pertinente à propos de l'estimation bayésienne, mais je n'ai pas rencontré, dans le contexte de l'assimilation, des lois d'erreur qui conduisaient à ce résultat-là. Par contre, les lois d'erreur qui sont évidemment bornées, hein, la quantité de neige, la quantité la quantité d'eau dans l'atmosphère est nécessairement positive, elle ne peut pas être négative. Donc la loi d'erreur associée doit faire que la quantité est positive. Bon, c'est pas gaussien, ça. Bon, on peut peut-être approximer ça par une gaussienne lorsqu'on sait que l'humidité est assez loin de l'humidité zéro, peut-être, on peut peut-être compter. Mais, strictement parlé, ça n'est pas gaussien. Donc, il faut quand même faire attention aux lois de probabilité qu'on utilisera. Alors, en particulier, le résultat que la variance, ou plus généralement la matrice de covariance de l'état estimé, de l'incertitude sur l'état estimé, est indépendante de la valeur des données, ça, c'est gaussien. Ça n'est pas vrai en général. Qu'on a des lois quelconques, l'incertitude sur l'état associé n'est pas indépendante de la valeur des données. Bon, alors pour aujourd'hui, j'aurais encore des choses à dire, mais je. Si, pardon, ici. Bon, je termine là-dessus. L'estimation bayésienne. Si on a une loi de probabilité pour chacune, pour l'erreur, pour l'incertitude, sur chacune des éléments, sur chaque élément d'information introduit. C'est bien défini. Mais dans la pratique, c'est quand même impossible. C'est impossible de. Comme j'ai raison. Dans la pratique, il est impossible de décrire une distribution de probabilité dans un espace de dimension même 10 puissance 3. On peut parler des dimensions de 10 puissance 6 ou 10 puissance 9 des modèles numériques présents. Ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, the curse of dimensionality. On ne peut pas, dans la pratique, manipuler, même avec un calculateur et avec le calculateur actuel, des lois de probabilité dans des espaces de grande dimension. Et d'autre part, la distribution de probabilité des erreurs sur des données est très mal connue. En particulier, les erreurs sur les modèles. Les modèles sont constamment améliorés. Et ils sont améliorés, on constate, ils produisent des prévisions dont la qualité s'améliore. Mais ils sont améliorés plus vite que le temps qui sera nécessaire pour évaluer de façon numériquement fiable l'erreur associée. Donc là aussi, avec les modèles, il y a un problème sans solution. On n'arrivera jamais à déterminer des lois de probabilité fiables pour les erreurs sur les modèles. Donc, le principe de l'estimation bayésienne, l'estimation ne peut pas être mise en œuvre. Mais je retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'empêche que la logique bayésienne est utile, parce que malgré ses imperfections, et malgré même ces obstacles qui font qu'une véritable estimation bayésienne est en pratique impossible, la logique bayésienne aide à comprendre ce qu'il fait et donne des voies à suivre pour ce qu'il fait de façon cohérente. Et ça, c'est un grand avantage. Bon, je dirais un peu plus. Oui, alors on doit se restreindre à quelque chose de beaucoup plus modeste. Et actuellement, il y a deux restrictions. Soit on obtient un élément central de la distribution de probabilité, la moyenne, un mode, le point où la densité est maximum, plus des estimations des erreurs associées dans les différentes directions dans l'espace des phases. Soit, et c'est une approche qui tend à se répandre, on ne cherche pas une loi de preuve, on cherche un ensemble d'états dont on espère qu'il échantillonne l'incertitude. la logique de la prévision d'ensemble appliquée à la simulation. Et en particulier, le filtre de Kalman d'ensemble, c'est peut-être une chose dont vous avez entendu parler, fait extrêmement seul. Et il était très intéressant que même quand on a des espaces de dimension 10 puissance 8 ou 10 puissance 100, ou de pas de, pas de 10 puissance, de dimension, oui, de 10 puissance, 10 puissance 8 ou 10 puissance 9, oui, comme il. Des ensembles de dimensions de quelques dizaines ou quelques centaines, en pratique, sont largement utiles. Même pour des raisons qu'on pourra discuter, mais on veut le savoir. Donc c'est ça que l'on fait en profit. On ne fait pas de l'estimation bayésienne, on fait de l'estimation bayésienne du pauvre. Mais le fait, la logique bayésienne n'en est pas moins utile. Bon, alors j'arrête là-dessus. Prochain cours, vendredi prochain, même salle, même heure. Je vais mettre le cours et l'enregistrement en ligne. Et alors, pour le programme de la semaine prochaine, bon, rappel de notions de base de probabilité, vecteur aléatoire, matrice de covariance, fonction aléatoire, fonction de covariance. Ça, fonction aléatoire et fonction de covariance, c'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas très bien. Puis, la méthode. La plus simple des méthodes non simplistes d'assimilation, qui s'appelle l'interpolation optimale. Et puis, je vous parlais plus généralement de l'approche best linéaire à modèle d'estimateur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Alors, arrêtez le partage. Arrêtez l'enregistrement.